Tu vois, c'est un peu mon truc aujourd'hui, ouais. C'est d'arriver à prendre de la musique indé et de la rendre mainstream, quoi. Ouais. Donc c'est en gros d'arriver à transformer un truc qui ne serait pas forcément populaire, mmh, à avoir un succès et une chance d'être diffusé parce que le truc il est bon à manger, quoi.
Bienvenue, vous êtes dans le Tempo, c'est le podcast des passionnés de musique, Daz.
Ah oui, et pas
c'est
que...
C'est le retour.
Ouais, après une courte pause estivale.
Absolument, absolument. Nouvelle saison.
Nouvelle saison, nouveau concept, hein, on va rien dévoiler, mais on s'approche doucement du 100e épisode.
C'est vrai, c'est le 98, d'ailleurs je crois qu'on n'a pas changé le frigo.
Si, si j'ai mis 98.
Oh là là,
j'ai
incroyable.
Juste pas mis qui nous recevions.
Ah, alors on peut le dire, voilà.
Alors vas-y.
Je suis ton spoil, on est avec Renaud Létang, ça va Renaud?
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Alors Daz, on commence avec du lourd pour cette nouvelle saison.
Ouais.
Effectivement, il y avait plein de nouveautés durant l'année, mais ce qui compte surtout, c'est les invités.
Ah bah.
Et là, c'est du lourd parce qu'on a quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a une carrière
extrêmement compétente.
Extrêmement, ouais. La carrière est extrêmement,
ouais,
compétente.
Je pense aussi, on peut dire ça. Ouais.
Renaud, tu commences à bosser à la fin des années 80, si je dis pas de bêtises.
Ouais, exactement.
Très vite, tu te retrouves dans un des plus gros studios en France, Guillaume Tell.
Ouais.
Là-bas, tu vois, c'est de la folie. Les
le Gotha, croisent. Le
ouais,
printemps.
Surtout, c'était la période où le studio était vraiment au top au niveau technique, matos et tout ça. On avait les derniers, les toutes nouvelles consoles, les synchros pour la vidéo, tout ça. Donc, c'était devenu un peu le studio numéro un dès qu'on voulait faire des trucs un peu compliqués, type musique de film, live avec vidéo, tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, pendant que j'y étais, c'est vraiment devenu le studio numéro un. Donc, il y avait vraiment, ça allait de Paul Simon à Yes, à Ozzy Osbourne, à Sting.
Tu les as tous croisés, c'est vrai?
Ces gens-là, ouais, ouais, certains, j'ai passé beaucoup de temps avec, et d'autres moins, et on faisait aussi, c'était des journées un peu spéciales parce qu'on faisait aussi tous les trucs français du moment, quoi. Ouais. Donc on passait vraiment de Michel Sardou à Ozzy Osbourne, quoi.
C'est pas mal, ça, quand même. Deux salles, huit ambiances, mais...
Ouais, ou de Sting à Dorothée.
Pas mal, j'aime bien quand t'es carré aussi.
Ah, Dorothée, elle a enregistré à Guillaume Tell.
Ouais, à l'époque, c'était...
C'est pour ça que ça sonnait bien.
C'était des amis du patron du studio.
OK.
Et du coup, le dimanche, des fois, on se faisait des petits lives de Dorothée, vite fait.
Bon, ça c'est vraiment le tout début. Derrière, tu vas enchaîner une carrière de 30 ans en fait, avec plein d'étapes hyper, hyper importantes dans ta carrière. L'une des grandes, c'est celle la rencontre avec Alain Souchon. Vous faites l'album sur lequel il y a notamment Full Sentimental. Et puis derrière, tu vas enchaîner, faire beaucoup de choses de variété française, de chansons françaises. Puis petit à petit, glisser vers de plus en plus d'anglo-saxons, ouais, de plus en plus de musique indé.
Alors là, attends, là moi je suis obligé de t'arrêter, ouais, parce que effectivement, tu nous fais un panégyrique, n'est-ce, ouais, pas, de la carrière de Renaud. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faisait dans le
justement,
studio
Guillaume? Parce que tu vois... J'ai envie de te poser la question, Renaud, parce, ouais, que est-ce qu'on peut dire que tu es ingénieur du son?
Ouais.
Ça te va comme métier?
Ouais.
Est-ce que tu es arrangeur?
Maintenant, oui.
Ouais. Producteur?
Oui, ça, beaucoup.
Réalisateur?
C'est la même chose.
Ah.
Voilà. Donc, un producer en anglais, c'est un réalisateur en français.
Ok.
Et un producteur en français, c'est celui qui met l'argent.
Ouais. Donc toi, tu fais les deux?
Non, moi je mets pas l'argent.
D'accord, tu mets pas,
moi
d'accord,
on me donne de l'argent.
Okay. Donc tu produis pas.
Je produce, ouais, exactement, ouais, exactement. Je fais le boulot de Quincy Jones ou Rick Rubin ou,
ouais, okay,
ou c'est vraiment ce boulot là que je fais.
Si je continue là dans ces métiers qu'on peut identifier, celui de réalisateur, on le connaît un peu moins, de producteur, de réalisateur, mais est-ce que alors ça peut rentrer aussi dans cette case, le côté compositeur? T'es aussi compositeur?
Je le suis devenu grâce à l'album que je viens de sortir.
Ouais.
Avant, si tu veux, quand tu fais des arrangements avec quelque chose qui existe déjà, ouais, tu composes des arrangements. Mmh. Mais il y a quand même une matière qui est là. Donc, mmh, tu composes pas. Donc, c'est pas la même chose que de partir de la feuille, ouais, blanche, ouais, et de vraiment composer un thème et de composer une mélodie ou de composer. Donc, oui, je l'ai fait, mais à travers les arrangements.
Ouais.
Et depuis peu, je le fais
pour toi vraiment.
Pour moi vraiment, ouais, exactement.
Daz, on a le vinyle d'ailleurs.
On a le vinyle.
Alors d'ailleurs, il faut le préciser, ouais, c'est sous le nom Drift et pas sous le nom Renaud Létang,
ouais,
cet album.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Je le mets pour la cam, je le mets pour les cams, je le mets pour toutes les cams, je le mets pour toutes les...
C'est un choix, c'est un choix pour plusieurs raisons.
Ouais, on en parlera. Ouais. Parce que, alors déjà, cet album, il est trop bien. Moi je connaissais évidemment ton travail en tant que réalisateur. J'ai été surpris de voir que c'était toi qui étais derrière cet album-là. Et c'est trop bien.
Merci.
T'en es fier de cet album ?
Ouais, j'avoue que j'ai mis le temps qu'il fallait et je l'ai fait au bon moment, je crois, pour pouvoir en être content. C'est pour ça que j'ai attendu beaucoup. J'ai 55 ans.
C'est ton premier album à 55 ans ?
Ouais, exactement. Je suis en mode révélation, quoi.
Un émergent d'Az.
Incroyable.
C'est un truc de fou.
C'est ça. Après, c'est un peu bizarre parce que j'ai une expérience énorme du fait de toutes ces années de travail et de voir comment ça se passe pour mes potes que je produis. Donc, j'ai vu des sorties d'albums, j'en ai vécu. Tu vois, quand j'avais 25 ans ou 27 ans et que je faisais Clandestino et que j'allais voir critiques. Ouais, les critiques, tu vois, dans Rock and Folk, tout ça, j'étais en panique comme eux à savoir ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils en avaient compris et tout ça. Donc, cette expérience-là, par contre, je l'avais. Et au niveau des médias aussi, j'étais quand même... Tu vois, les médias, ils me connaissent par rapport à mon travail. Donc, c'était assez marrant de commencer comme un enfant musicalement, mais à un autre niveau, j'avais une expérience importante. Donc, c'était pas, pour moi, c'était... j'ai vécu la naissance artistique comme une chose nouvelle pour moi. Mais par contre, tout ce qui est médias et tout ça, j'avais déjà fait pas mal d'émissions de radio. On avait fait pas mal de portraits sur moi déjà depuis plusieurs années. Donc, ça m'a aidé aussi à me sentir à l'aise par rapport à ça. Parce que, évidemment, si je suis producteur ou réalisateur, c'est aussi parce que, à la base, j'aime pas trop être le centre du truc, tu vois. Il faut avoir le caractère qui va avec, sinon t'es malheureux. Parce que c'est toi qui taffes le plus.
Et t'as zéro laurier, t'en as, mais
pour les gens qui savent, pour les gens qui savent, t'as les lauriers. Ouais. Pour le grand public
tu l'as. Pas,
exactement. Donc, il faut pas mal le vivre, ça. Donc, à l'inverse, quand c'est toi qui es devant, tu vois, si c'est ton premier album et t'as rien d'autre dans tes bagages, tu vois, t'es obligé de surjouer un truc un peu à un endroit, tu vois, t'as ce truc de faker, d'en faire trop, t'es pas à l'aise.
Pour asseoir ta légitimité.
Exactement, et donc ça m'a aidé beaucoup d'avoir une légitimité professionnelle qui fait que quand je parle de ça, en fait, je parle juste de mon travail qui existe. Je parle pas d'un truc où j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était important pour moi parce que c'est juste une histoire de caractère. Hein. Ouais. Je dis pas que ce qu'il y a, c'est vraiment une histoire de caractère.
À quel moment le shift s'est produit où tu t'es dit j'ai justement suffisamment de bouteilles, j'ai tout fait, en gros, hein, concrètement, quand on voit avec qui t'as bossé, t'as tout fait. Tu vois, à quel moment tu te dis allez maintenant, c'est pour moi? C'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis.
Disons que à partir de Clandestino, on a commencé à me proposer. Clairement. D'accord. À dire, mais pourquoi tu fais pas un album, blablabla. Et comme tu dis, moi, j'ai eu une carrière un peu inverse, en fait. C'est-à-dire que très jeune, j'étais avec des monstres, un peu. Mmh. Et donc, c'était compliqué pour moi, jeune, de me dire, ouais, en fait, j'ai le niveau pour faire un album. Je bossais avec que des tueurs, quoi. Donc, j'étais là, genre, en mode, fais ce que tu sais faire. Ouais. Fais-le le mieux que tu peux. Ça a l'air de plaire ce que tu fais quand tu fais ton taf. Et tu vois, je voulais pas du tout avoir... j'avais extrêmement peur du comédien qui veut chanter, tu vois. Tu vois ce truc là c'est chaud là, c'est le truc que tu... non c'est vrai, c'est le truc que tu...
Ouais.
C'est le pire truc qui peut t'arriver, en vrai, quand on dit ouais il aurait dû rester tu vois ce que je veux dire.
On parle d'Elysée Moon ou je cherche des exemples.
Par exemple,
ouais. C'est pas toi qui l'as enregistré, Elysée Moon?
Non.
Souris quand même. Tu connais la personne qui l'a enregistré.
Ouais, en tout cas. Ouais. Mais il y a eu pire. Hein,
bien vrai. Sûr qu'il y a eu pire.
Ouais, il y a eu pire. Parce que ce qui était dur, ce qui est toujours compliqué, c'est un comique. Ouais. Donc après, comment tu peux être sérieux et un vrai lover sincèrement, alors qu'il l'est sincère. Ouais. Et il est doué.
Mais tu sais quoi,
pas doué. C'est juste qu'il est tellement dans la tête des gens, il est tellement référencé.
Il est identifié,
humoriste, que c'est mort. Dès qu'il lève le sourcil, tout le monde rigole. Mmh. Alors qu'il est en train de chanter Mon amour, j'en sais rien. Donc le truc se fait pas. Tu vois, c'est... Alors qu'il y en a d'autres qui étaient vraiment mauvais et qui ont fait des trucs mauvais.
T'as fait un truc improbable dans ta carrière ou un truc où vraiment tu te dis, bon, Franchement, ça, j'aurais pu m'en passer.
Bah, Dorothée, déjà, non je...
Ouais, enfin, là, j'étais juste okay. assistant. Mais c'était marrant à la fois, tu vois. C'est les premiers trucs que tu fais. Un de mes premiers mix que j'ai fait, c'était la Musclada.
Donc, c'était. Qu'est-ce que c'est
les musclés.
La Lambada.
La Lambada des
musclés. Mais version musclée.
Attends, je veux trouver ça.
Je veux trouver ça.
C'est incroyable.
Ouais. Ah, c'était toi.
Ouais, et donc, juste parce que mon. Je travaillais à Guillaume Tell, donc, c'était Roland Guillaume Tell qui faisait tous ces trucs-là, et il m'avait demandé d'en mixer un, mais moi, c'était pour mon premier truc, quoi, donc.
Parce que ça, le créateur des studios Guillaume Tell s'appelle Guillaume Tell, d'où Guillaume de Vazur.
Exactement.
Attends, je l'ai trouvé, la Musclada des musclés. Donc là, t'étais quoi? T'étais vraiment, t'as seulement mixé, t'as fait de la prise son, t'as fait quoi sur ça, tu te rappelles?
J'ai dû assister Roland, et puis ouais. il m'a demandé de le mixer, quoi.
On va voir si c'est bien musclé. Si c'est bien musclé.
Musclé, pas mal.
Allez, on s'écoute ça.
Oh, vous êtes vaches, les gars. je viens être sincère, mais.
Attends.
Ah, le mix est propre.
Attends, juste deux secondes. À quoi ça ressemble, gars? J'avance.
C'est la Lambada des musclés.
Ouais, c'est ça. En plus cheap, quoi. Parce que vite fait.
Ouais. Ouais, mais enfin, les musclés. Bon, les musclés, ouais. Le groupe qui accompagne Dorothée, le backing band, un petit peu. On est toujours très critique. En vrai, il y avait 12 niveaux de lecture dans leur truc. Tout leur truc, ça parle de fion. Sauf qu'en fait, et ils chantaient ça devant des gamins qui avaient 12 piges pendant le club Dorothée, tu vois.
Donc, cette belle époque.
Non, mais parce que les gamins qui avaient 12 piges, pour eux, la fête du village, on mange des merguez, tout le monde est content, tu vois. Alors qu'en fait, il y a un double, triple sens là-dedans, tu vois. Donc, quelque part, il faut aussi. Rendre honneur à ses compagnons du geste.
Et il faut rendre honneur aussi à Renaud, parce que je lui ai demandé, le pauvre, je lui ai demandé l'un des trucs qui est un peu dur, tu vois. Une de tes grandes fiertés, par contre.
Là, c'est.
Là, ça va être compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, là.
Sans faire le mec.
Ça serait déjà, tu penses, un français ou un anglo-saxon ça serait...
J'en ai plusieurs, mais c'est à des époques, tu vois.
On était au début,
Jamie Lidl par exemple. Ouais. C'était un album. C'est pas des albums dont je suis forcément le plus fier, mais c'est des changements pour moi. C'est des trucs où ça a pivoté.
Des charnières.
Exactement. Ouais.
Et du coup,
parce que je découvrais un truc. Ouais. Clandestino, c'est le cas, tu vois.
Il faut qu'on retrace parce que en plus on n'a pas trop fait le name dropping encore, mais en fait c'est extrêmement impressionnant. On ne pourra pas parler de tout. Donc ce que je vous propose justement, c'est peut-être de se faire ça, une espèce de petite partie là, un peu sur ton rapport au son et comment il a évolué. En fait, comment en tant que professionnel aussi, t'as grandi, tu vois, au fur et à mesure un peu des. Parce que l'un des premiers trucs, alors t'es pas complètement en solo, mais l'un des premiers projets en tout cas à travers lequel on t'identifie, c'est Alain Souchon. On est quoi, en 93, un truc comme ça?
Donc enregistré en 92.
Ouais. Ouais. Okay.
C'est mon premier. C'est
une vingtaine d'années, quoi.
J'ai 22 ans et c'est le premier album que j'enregistre et que je mixe de ma vie.
Ouais. Et c'est le premier projet.
C'est la première fois qu'on me proposait d'être vraiment ingénieur du son sur un album entier.
Ouais.
Voilà. Et donc ça s'appelle de la chance.
Mais pourquoi on te le propose comment tu te retrouves sur ce plan?
C'est assez intéressant, par contre, parce que en fait, j'étais parti de Guillaume Tell assez jeune, à 21 ans, parce que j'avais déjà développé une toute petite clientèle de musique de pub. Et donc, à Guillaume Tell, je faisais beaucoup de, en tant qu'ingénieur, pour le coup, j'enregistrais des musiques de pub et je les mixais. Et c'est comme faire des mini-morceaux, tu vois. Mmh. Donc, j'étais parti de Guillaume Tell depuis un an et je bossais pour des boîtes régulièrement, les grosses boîtes de l'époque, Macadam, Vol de Nuit, c'était vraiment des boîtes de prod de musique de pub. Et pendant une semaine entière, j'ai travaillé avec la même personne, qui est un arrangeur qui s'appelle Michel Curieux.
Mmh. Qui est justement sur le Souchon, c'est ça?
C'était le réalisateur de cet album. Moi, j'étais pas réalisateur sur cet album. J'ai été réalisateur après, sur les autres albums, mais pas sur celui-là.
Donc, il t'a embarqué avec lui?
Ouais, et c'est parce que dans la même semaine, le premier jour, on a fait un titre genre Massive Attack, tu vois. Donc, il faut très vite mixer et puis que ça ressemble, tu vois. Donc, deuxième jour, on a dû faire un morceau de vielle, genre sous Bretagne. Le troisième jour, on a fait des cordes pour Renaud, un gros truc, machin. Mais du coup, à la fin de la semaine, il m'a dit, écoute, on a fait tout ça, ça s'est bien passé. Est-ce que ça te dirait d'essayer de faire l'album avec Alain Souchon? Voilà, donc ça a été vraiment beaucoup de chance, quoi. Mmh. Beaucoup de chance, beaucoup de chance de tombé sur cette personne qui faisait confiance à un jeune, tu vois, parce que c'était quand même Souchon à l'époque, c'était fat quoi, c'était tu vois, il avait 45 ans, non, c'était gros quoi, c'était donc
ouais, alors attends, tu dis que c'était gros, mais cet album qui s'appelle C'est déjà ça, c'est ça qui va relancer même, enfin j'ai l'impression que
ben, c'est son plus grand succès d'album quoi.
Tu prends pas un mec qui est au firmament, enfin vous l'amenez au firmament avec cet album quoi.
ouais on l'amène et il s'amène aussi lui, je pense que c'est ça fait partie de ces vraiment de ces de c'est un de ces artistes qui a été de plus en plus respecté au fur et à mesure de sa carrière et de plus en plus apprécié et de plus en plus ouah le poète, ouah le gars, ouah le machin, alors qu'au début on disait ouais c'est un chanteur à fille quoi un peu, tu vois, c'était le truc de l'époque,
c'était léger,
c'est ça, c'était mignonné et en fait pas du tout, c'était ultra profond le truc, tu vois, allô maman bobo de, tu vois, c'est genre donc oui, mais il y a aussi l'époque, l'évolution de sa carrière et nous on a bien bossé, Michel il a fait une super réalisation, moi je suis arrivé avec un truc où je crois que j'ai fait un bon son, mais c'était pas voulu, c'était lié à mes capacités qui étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui, et du coup j'ai fait ce que je savais faire et ça se faisait pas trop à l'époque, du coup
c'était
ça
quoi,
fait
c'est-à-dire qu'est-ce qui se faisait pas trop à l'époque,
dans les années 80 on mettait beaucoup d'espace dans les morceaux, beaucoup de reverb, beaucoup d'effets, beaucoup de machins. Et moi, j'écoutais déjà Jamiroquai et je sais pas quoi, et Stevie Wonder. Et donc, l'album, moi, j'ai mixé et du hip-hop. Et donc, j'ai mixé le truc en ayant des grosses batteries, avec pas beaucoup de reverb, finalement, sur les trucs, à part sur la voix. Mais tout le reste, c'était assez sec, assez. Et du coup, ça, tout le monde a dit, waouh, c'est un nouveau son. Mais en vrai, c'était juste parce que.
Donc, Alain Souchon, il est hip-hop en fait.
Ben, il le sait pas, c'est ça qui est incroyable.
Mais sur C'est déjà ça, ben, c'est
tu vraiment rigoles, ouais. Tu rigoles, mais tous ces morceaux de cet album, ouais. Les mecs de rap, ils adorent. Ils ont
les textes, eux, sont stylés.
Voilà, les textes, même le fait que ça soit dynamique, tu vois, c'était pas mou l'album, c'était genre faux sentimental. Tu l'écoutes, c'est basse batterie, c'est présent quoi. C'est pas.
Qu'est-ce que, dans tes souvenirs, qu'est-ce que t'apprends de plus important en travaillant sur cet album? Je pourrais même dire en travaillant avec Alain Souchon, parce qu'en fait, vous allez en faire une dizaine d'albums avec Alain Souchon, non?
Ouais. Pff, j'ai appris. Enfin, tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont ultra brillants et bien plus brillants que moi, ce qui fait que ça m'a juste tiré vers le haut, quoi, tu vois. Et c'est à tous les niveaux, humainement, artistiquement. Au niveau de l'aboutissement des projets, jusqu'où tu vas, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Alors c'est pas qu'eux, mais Alain, il fait vraiment partie de ces, c'est comme un tonton pour moi, tu vois, il m'a conseillé, il m'a dit ouais, tu fais attention à ça et tu fais attention à, enfin tu vois, il y avait un truc humain ultra important. Et bon ben le truc intellectuel de trouver le bon écrin pour son morceau, pour que ça raconte le bon truc comme il veut et tout ça, c'est ultra intéressant. Et c'est grâce à, enfin c'est pour ça que j'ai pu faire des albums avec Philippe Catherine qui ont marqué et tout ça, c'est parce que j'avais déjà eu ce rapport avec quelqu'un qui allait jusqu'au bout des textes, de ce que ça raconte et de tout ça quoi.
Donc, du coup, quand tu bosses avec lui, concrètement, ça veut dire que vous êtes en studio ensemble, ouais. Et lui, il arrive avec les textes et la mélo quand même.
Ouais, c'est ça. Il arrive. Donc ça, moi, je suis pour Full Sentimental, j'étais pas là pour cette étape.
T'es pas encore réal à ce moment-là.
Voilà, donc moi, je récupère les maquettes du réalisateur des morceaux. Et après, on enregistre l'album avec des musiciens et tout ça, et on fait évoluer le truc quoi. Chose que j'ai fait pour les autres albums avec Alain, où j'ai récupéré les maquettes, vraiment guitare-voix basique, et j'ai fait tout ce travail de réalisation.
Et alors moi j'ai une question, c'est donc ça c'est vraiment l'album où, c'est ton premier vrai album de A à Z où tu bosses dessus.
Ouais.
Si tu devais le refaire aujourd'hui, par rapport au mix dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais quelque chose déjà? Est-ce que par rapport à tout ce que tu as pu apprendre depuis...
Je crois que je changerais à chaque fois que je l'écoute pas moi, mais je suis surpris parce que ça passe quelque part ou tout ça, je suis surpris des balances et qu'il n'y a pas de faute, mais ce que je changerais c'est les fréquences où il y avait le choix des réverbes, le choix des effets qui était un peu froid. Mais parce que c'était lié à l'époque, donc c'est ça que je changerais.
D'accord. On pourrait limite, ça s'entend particulièrement sur un morceau de l'album, cette, qu'on pourrait essayer de le repérer ensemble, ce truc qui te. Il y a Full Sentimental, ouais. Il y a L'amour à la machine, Sous les jupes des filles, Les regrets, Les filles.
Bah, c'est un peu.
Que des bangers.
C'est comme la photo un peu. Au début, quand on commence à faire ce métier, ce qu'on croit, c'est que c'est bien quand il y a beaucoup d'aigus. Parce que c'est le truc qui fait cling cling, qui fait bling, tu vois. Et t'as l'impression que ton truc il sonne.
Qui joue sur l'intelligibilité, on comprend ce qui se passe.
Oui, mais même pas en fait. Ah ouais. Et en fait, t'apprends avec le temps que moins il y a d'aigus, moins tu peux en mettre, mieux c'est. Ouais. Et que les aigus, c'est pas.
Quoi, ça pète la tête au bout d'un moment.
Il faut de l'air, mais il faut pas. Ça déprécise, ça casse les oreilles. En vrai, les bons disques, il n'y a pas beaucoup d'aigus.
Tu vois, ça, nous, dans le rap, on l'avait compris
ouais,
tout de suite.
Exactement. Non, mais tu blagues, mais c'est...
Que de la basse.
Non, mais il y a un truc qui est vrai. Après, tu vois, y a eu, c'est des histoires d'époque où le son, il a changé aussi par rapport aux enceintes que les fabricants ont construites, tu vois. Donc, au début, il y avait que du médium dans les sons, bah, parce que les enceintes ont recraché que du médium. Puis à un moment, ils ont fait des enceintes où il y avait des aigus, et puis tout le monde s'est dit, faut mettre des aigus. Puis après, tout ça se modère, tu vois, tout ça se.
Ah, c'est marrant que ça soit dans le. Enfin, toi, tu le vois sur la partie ressentie du son, alors que moi, je plaçais ça parce que par exemple, moi, souvent, je dis que je peux pas écouter du NWA, par exemple. Ouais. Et un album, le groupe de Dr. Dre, évidemment, et Easy, etc., qui est sorti genre en 89, 90, 91. Ouais. Et je ne peux pas, parce que je trouve qu'il y a trop d'aigus dans ce truc-là, ça me bousille, en fait.
Ouais, ben ça, c'est lié aux années en question.
Moi, je pensais que c'était parce que c'était aussi. Alors que The Chronic, qui est sorti en 92,
ça a rien à voir.
Il est incroyable. Ouais. Mais je pensais que c'était lié aux machines qu'eux utilisaient quand ils faisaient la musique, plutôt que les enceintes sur lesquelles ils la jouaient, tu vois.
Ben, c'est. Disons que c'est l'évolution. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de subs, il y a plein d'aigus dans les trucs. Pourquoi? Bah parce que les enceintes,
elles peuvent encaisser. Ouais,
et voilà, elles en ont plein. Donc c'est un. Je dirais pas que c'est pas. On choisit pas à cause des enceintes, mais le son va quand même évoluer en fonction de la capacité des enceintes.
Ouais,
tu vois comment est-ce que il faut que tu mixes pour que le truc il passe dans les enceintes du moment. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce qu'il y a de commun dans toutes les enceintes de toutes les époques, c'est le médium. Et donc tous les bons disques, c'est quand le médium il est géré, parce que c'est ça qui fait que ça va sonner dans n'importe quelle enceinte. D'accord. Qu'il y ait des aigus, des graves, tu t'en fous, le truc il va projeter la même chose. Et après, avant on faisait que on gérait le médium, par exemple dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de graves dans les enceintes. Donc le grave il était vachement serré et pas gros et pas baveux, tu vois, et c'était les aigus et les médiums qui tapaient, mais les médiums c'était les mêmes.
D'accord.
Que dans les bons albums d'après et que dans les bons albums d'Afran et que dans les bons albums d'aujourd'hui.
D'accord.
Ça veut dire, dans un album de Kanye West, les médiums, ils sont gérés.
Comme à l'ancienne.
Comme à l'ancienne. Ouais. Dans les albums de je sais pas qui, j'en sais rien. Moi, je peux. Tu vois, 2001, c'est abusé. 2001, c'est que du médium.
C'est. Tu dis d'ailleurs que c'est une de tes références, ou du moins ça l'a été à un moment.
Ouais. Cet album-là, il est incroyablement mixé et incroyablement produit. Quoi.
Ouais, Dr. Dre. Hein.
Ouais, c'est abusé. Non, mais surtout, cet album, c'est vraiment genre. Pour le coup, il sonne pareil partout. Et c'est lié à la gestion des médiums, encore une fois. Je me répète, mais parce que c'est tellement important de le comprendre pour pouvoir faire du bon son et pour pouvoir se retrouver. Parce que. Du coup, si tu gères pas tes médiums, tu vas te retrouver avec ton son qui va changer à chaque enceinte.
Ouais.
C'est-à-dire, tu vas dans un parking, t'entends rien. tu vas dans une bagnole avec plein de subs, t'entends rien, t'entends que du sub. Et donc, c'est vraiment ultra important. C'est vraiment la clé de faire un bon mix, c'est de gérer les médiums. Et du coup, ça sonne même pareil sur un téléphone. C'est-à-dire, ton mix, il sonne pareil sur le téléphone, sur des grosses écoutes, dans la voiture, dans le machin. Et c'est le cas pour les bons disques de jazz. À l'époque, tous les vieux disques de jazz qui sonnent la mort, c'est parce que le médium est ultra bien géré. Et c'est là que tu as la musique, tu vois. C'est-à-dire que les subs et les aigus, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de notes. Ça fait... Et bouf.
En matière de ressenti, c'est intéressant ce que ça peut provoquer.
C'est intéressant, mais c'est pas de la musique.
Ouais.
Donc, si tu gères ton son par rapport à ces fréquences, il va te manquer des cases sur des enceintes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, tout à fait.
Et donc, tous les bons disques, c'est le cas. Quoi. Mais vraiment tous. Quoi.
Sur 2001, qu'est-ce que tu aimes vraiment bien comme morceau?
je sais pas, franchement, je les aime tous. Style, vas-y. Hein,
style. Classique.
Ah bah,
allez,
Scott
Storch. Cet extrait. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre. Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on things,
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beat.
C'est marrant qu'on parle de cet album, parce que c'est vrai que c'est une référence chez tous les techos du son, en fait.
Mais toi, tu l'aimes pas, cet album, par rapport
non,
à
The Chronic? Non, enfin, je l'aime moins, en fait, parce que pour moi, il est très daté dans son esthétique. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je me dis instantanément, je suis en 99. Alors que quand j'écoute The Chronic, vu que ça semble du Donny Hathaway, des trucs comme ça, c'est intemporel. Pour moi, je peux, The Chronic, vraiment, je peux l'écouter tout le temps. Alors que, tu vois, 2001, c'est comme les prods de Timbaland, comme les prods de Neptune, c'est vraiment...
C'est une référence pour toi aussi, Timbaland, je crois.
Ouais. Bah, toute cette époque, quoi, ils ont
ah, mais les mecs, c'est des monstres, en fait.
Ils ont vraiment
en...
mis le tarif, ouais.
Ouais, c'est, ouais, c'est des monstres de technique. Mais du coup, ils sont tellement dans la technique que, pour moi, c'est trop daté. C'est vraiment... je me retrouve systématiquement, genre, bah, 2002, ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'est très... c'est, de mon point de vue, hein, incroyablement produit.
Ouais.
C'est du taf d'ingénieur de la NASA, tu vois, il y a pas de problème, mais je trouve que ouais, ça me met trop dans une
ça tient,
timeline,
ouais,
en fait.
Mais ça tient à la nature des sons qui ont été utilisés,
ouais, bien sûr,
ouais,
ouais.
Ouais. Ouais, les instruments et tout,
en fait c'était cette période là où après 2001 tout le monde a voulu faire comme 2001, tu vois, donc t'as après plein de copycats qui essaient d'arriver et de reprendre les recettes et les trucs à la Scott Storch avec les trois notes de piano et les machins.
Tu parles de copycats parce que c'est intéressant ce que tu nous dis, c'est que quand tu commences au début Renaud avec Souchon, tout de suite une petite patte qui n'est pas forcément évidente, qu'on ne mêle pas forcément à Souchon, qui est ce côté justement peut-être on ne joue pas trop sur l'espace, moins de réverb remis sur la voix, peut-être des batteries qui tapent un peu,
ouais,
plus, ce,
ouais,
genre de truc.
Ouais, la basse.
Les basses, ouais.
Ouais.
On a compris aussi que dans ta philosophie du son, il y a le côté, les médiums qui sont le truc le plus important sur lequel il faut se concentrer, etc.
Ça, il faut que les gens le notent. Ça.
Exactement. C'est... Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure de ta carrière, il y a eu des étapes comme ça qui t'ont permis de te dire ah, tiens, ça, je l'avais jamais envisagé comme ça, et là, c'est un changement. Alors que ce soit sur vraiment le pur traitement du son, ou même tout simplement dans la manière de travailler avec les gens, j'en sais rien, tu vois. T'as déjà cité Clandestino, Manu Chao.
Mm-hmm.
Ça, c'est justement une de ces grandes étapes dans ta carrière ?
Ouais, ouais. Très jeune, je me suis retrouvé à faire des trucs gros, qui étaient chansons françaises. En plus, moi, j'ai pas vraiment grandi en France. Donc j'avais des trous de culture, mais genre intense. Donc pour moi, ça représentait...
On précise, t'es né en Iran, ensuite t'as vécu au Venezuela, mais avant tu es passé aussi par l'Indonésie.
Exactement, ouais.
Ouais. Ouais. Voyageur, enfant, quoi.
Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, il y avait un décalage un peu. Mais par contre, j'étais mûr. Donc je savais qu'à 22 ans, qu'il fallait que je fasse un son comme ça pour Alain Souchon. J'allais pas faire... tu vois, et au début j'étais connu pour faire de la chanson française, mais en vrai c'était pas du tout ça, c'est juste que j'allais pas dire non, en fait je me retrouve à... non mais c'est vrai, et si j'avais fait un son trop extrême à un endroit, j'aurais mal fait mon taf, j'étais là pour faire ça, je savais le faire et je l'ai fait.
Tu vas t'amener à faire Nougaro, Jane Birkin,
ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, mais là, oui. Oui, mais Nougaro, ça avait déjà évolué.
Ouais.
Le son que je faisais, c'était déjà survénère comparé à de la chanson française.
Ouais. Sur Nougaro, on parle de quelle période de Nougaro, du coup
Plutôt à la fin, quoi. Ça doit être, je sais pas, je m'en rappelle plus exactement, mais ça doit être fin 90.
D'accord.
Un truc comme ça. Donc,
donc Nougaro qui était déjà passé par là, il avait déjà changé son de fou.
J'étais assistant sur Nougaro.
Ah ouais.
Ouais, j'étais assistant. Et après, j'ai...
Banger aussi, Nougaro.
Ah bah, de fou.
Ouais, ouais. Ouais. Mais le type était incroyable. Hein. Franchement, quel mec. Hein. Musicalement, humainement, à tous les niveaux, c'était vraiment... Et donc, tout ça pour dire que j'étais dans un truc très professionnel. On me demandait de faire ça. J'essayais de faire bien mon travail. Et au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé sur des trucs plus extrêmes. Et là, j'ai pu vraiment m'exprimer, y aller. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai pu m'exprimer dans plein de styles. ce qui fait que j'ai acquis une crédibilité dans plein de styles. Donc j'ai aussi bien fait l'album de La Rumeur qui s'appelle L'Ombre sur la mesure.
T'es réel là-dessus?
Ouais, je suis réel, mixeur.
Mais comment se fait la connexion en fait?
Puisque la connexion, c'est maison de disque qui dit à La Rumeur, enfin La Rumeur qui sont intelligents et qui disent, nous on veut tout de suite avoir un réalisateur, on veut que notre truc ça défonce, on veut pas, on veut pas rigoler. Et la maison de disque qui dit, ok, moi je connais ce gars-là, il est habitué à faire des trucs chelous, il adore le hip-hop, mais c'est un producteur qui a eu du succès sur des gros trucs. Tu vois, c'est un peu mon truc aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre de la musique indé et de la rendre mainstream, quoi. Ouais. Donc c'est en gros donner d'arriver à transformer un truc qui ne serait pas forcément populaire à avoir un succès et une chance d'être diffusé parce que le truc il est bon à manger, quoi.
Ouais. Et ça c'est un truc que tu as appris sur Clandestino, non?
Ouais, à fond. Mais c'est des Clandestino, c'est extrême. Le son, la prod, tout, on était hors format, on était complètement à la street quand c'est sorti. Non, mais soyons clairs, quoi. On a eu la chance de travailler avec Emmanuel de Burtel, qui était le patron à l'époque, qui était chez Virgin et qui a compris le délire. Mais on aurait pu tomber sur n'importe quel gars qui nous aurait dit, vos maquettes, là, c'est un bordel, c'est quoi votre truc de à la con, là, ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire,
il était connu pour ça, justement, pour
être visionnaire pour sentir le truc.
C'est lui qui a fait première consultation de Doc Gynéco, tu vois. Donc, le mec, il dit, ok, il y a un potentiel, on y va, quoi.
C'est ça, ouais. Donc parce que, oui, il y avait. C'est fait, il y a un petit sampleur, une guitare acoustique, un mec qui chante vénère et puis des ambiances et puis trois bouts de trucs, quoi. Enfin, c'est
ultra bricolé, cet album
complètement.
Bah, je crois que ça va avec la DA en fait, non, du...
Ouais, c'est ultra bricolé, réalisé en sachant ce que tu fais, donc c'est ultra réalisé, mais ça s'entend pas. C'est ultra produit. Mais le but, c'était que ça fasse
à l'arrache.
Exactement. Et donc là, c'est des compressions de malade, des EQ de malade, où je découvre des trucs où je me dis, ah ouais, on peut aller jusque là, ok. Et donc voilà, mais ça a été plus. Et donc, au fur et à mesure du temps, ça a dévié jusqu'à ce que je fasse Peaches, je sais pas.
Il y a toute la clique, effectivement, Chilly Gonzalez,
avec
qui t'as énormément collaboré.
Ouais.
Donc il y a Peaches, il y a Faced,
il y a Moki,
il
y a Jamie Lidl, il y a So Cold.
Ça, je connais pas.
Ouais, c'est un rappeur canadien. Okay. Ouais. J'ai eu
Clandestino qui t'amène à ça presque. C'est marrant,
bien sûr, mais Clandestino, ça m'a amené à plein de trucs. Parce que justement, si j'étais le mec qui était capable de prendre de la matière chelou et d'en faire un truc qui se tient, quoi. Et donc j'étais l'anti, je suis passé du producteur à cigare à faire des de la grosse chanson française alors que j'avais 23 ans ou 25 ans, quoi, à le gars qui sait faire des trucs autrement que dans les cases et qu'à la fin
ça sonne bien et c'est reçu par le public, en fait.
Exactement, ouais, ouais. Exactement. Et parce que du coup, quand un truc est bien fait, ça t'ouvre plein de portes quand même. Et ça n'empêche pas que t'enlèves rien à l'intégrité de la prod, du sentiment, de tout ça. Mais ça t'ouvre à la radio, ça t'ouvre au synchro pour les films, ça t'ouvre à plein de trucs parce que juste le truc, il est bon à manger, quoi.
C'est vrai que Manu Chao, quand même.
Incroyable. Et c'est toujours le cas. Ce qui me fascine, c'est que c'est toujours le cas, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours. L'an dernier, on a fait trois mois premier sur TikTok, quoi. Tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est abusé.
Déjà, il reste fidèle à lui-même. Là, j'ai trouvé ça. Alors, malheureusement, il ne fait aucun média. J'ai demandé. Hein, on m'a dit,
oui, bah, c'est pour ça que... Je pense que c'est parce qu'il est rare qu'il a toujours cette aura.
Et là, il a un tout petit peu tourné. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire tourné, mais il a fait quelques dates. Il y a un an, un truc comme ça, je crois. Mais des trucs hyper modestes. Vraiment, parce que je crois qu'il kiffe ça, tu vois. Juste... C'est un mec qui a vécu en tout cas en adéquation avec ce qu'il portait, j'ai l'impression.
Oui, c'est pas fait récupérer par la machine.
Alors que tu vois, on aurait pu se dire à l'époque, alors en plus il sortait de la Mano Negra, donc il s'était pas assuré déjà d'arriver, tu vois, en solo, de s'en sortir. Et en fait, on aurait pu un peu le voir comme, tu sais, je sais pas, tu sais, le rebelle de pacotille. Et en fait, je crois qu'il a prouvé avec le temps que c'était absolument pas lui, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, bon, quand tu connais l'histoire de la Mano Negra, la Mano Negra, c'est lui, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, donc, il y a un truc où. Il y a une continuité. Même le groupe qu'il avait avant, qui s'appelait. Pas Joint de culasse. Il a été dans un groupe qui s'appelait Joint de culasse, mais un autre groupe. Non, mais qui était hyper bien. Un groupe qui chantait en espagnol.
Ok.
Vous voyez ce.
Hot Pants.
Hot Pants, exactement. Ouais. Hyper bien. Okay. Hyper bien.
Tu disais quoi, pardon, tu...
Non, quand je suis arrivé en France, à chaque fois qu'on est revenu de l'étranger, je vivais à Sèvres. Et du coup, j'ai grandi aussi avec. Pour une partie de ma vie avec toute cette vibe de rock alternatif, parce qu'ils venaient tous de Sèvres en fait. Donc Manu était de Sèvres, mais il a 10 ans de plus que moi, donc on n'avait pas de relation, mais je le voyais dans la rue, je voyais les concerts, je voyais que ça évoluait pour lui, on était embarqués tous les groupes, tous les garçons bouchés, ces mecs-là, ils passaient leur temps à Sèvres, c'était vraiment le repère de la musique alternative, quoi.
C'est marrant parce que alors toi, t'es à la jonction de plein de trucs, je t'ai entendu déjà le dire d'ailleurs, à la fois folk, chanson, à la fois hip-hop, à la fois funk groove, hyper important pour toi aussi, ouais. On n'en a pas encore trop parlé.
C'est le plus important en fait, bah et oui. C'est ce qui fait que...
Ce qu'on trouve dans ton album d'ailleurs, At The Party.
Ouais, mais c'est surtout, je crois que ce qui m'a permis d'avoir une carrière de réalisateur comme ça et que je puisse un peu naviguer dans plein de musique, bon c'est déjà parce que... les musiques, tu peux pas être réalisateur d'une musique que tu ne ressens pas pour de vrai. Tu peux pas faker, tu vois. Ou alors tu fais de la variette. Puis là, c'est toujours un espèce de copie de truc. Tout le monde s'en fout de la vibe au final, si elle est vraiment pointue ou pas. Mais si tu fais de la musique pointue, les groupes, ils sont ultra touchy. Tu fais le son qu'il faut pas sur le truc. On te dit non, mais lui, laisse tomber, il connaît rien, tu vois. Donc il y a un truc où il faut que. Tu peux pas ne pas aimer pour de vrai et ressentir pour de vrai la vibe qu'il faut pour cette musique. T'es obligé de la ressentir pour pouvoir bien la faire. Sinon, encore une fois, si tu te retrouves dans le vrai truc, on va te dire, vas-y, t'es à la rue, quoi. Donc, si tu fais du hip-hop, bah, à un moment, si tu veux aller avec les gars et bosser avec Kazé à l'époque, ou je sais pas quoi, ouais. Fallait que le truc, ça envoie.
Féroce aussi.
Voilà, ouais, Mais tu vois, il y a un truc.
Ça veut dire quoi? Il faut s'immerger avec les gens.
Il faut s'impliquer.
C'est pas ça, c'est l'émotion. Il faut que tu aies ressenti ce que les gens ressentent de ce qu'ils aiment de la musique, de ce style-là. Donc c'est une vibe. Tu vois, la musique, c'est une vibe.
Il faut s'intéresser authentiquement au truc, quoi. Faut pas
c'est,
juste
plus c'est plus que s'y intéresser. Il faut le ressentir. Pour de vrai, il faut kiffer. Il faut vraiment kiffer et comprendre pourquoi. Du coup, tu comprends pourquoi les autres ils kiffent ce truc. Et une fois que tu le kiffes, et ben là t'es bon parce que c'est ça qu'il faut mettre dedans. Chaque musique, en fait, c'est pas, il y a pas de musique différente, c'est des vibes différentes. Tu vois. Et si tu mets pas la bonne vibe sur le style de musique, t'as tout faux. T'as beau faire le meilleur prod, le meilleur son de l'univers,
ouais,
t'es à Teco, t'es à Teco. Et c'est le truc que je conseille à tous les jeunes mecs qui commencent, c'est se poser la question, c'est quoi la vibe? C'est quoi la vibe? Est-ce que c'est des gars qui aiment bien être bien habillés? Est-ce que c'est des gars qui aiment être crado? Est-ce qu'il faut que ça pue le truc qui est stylé? Ou justement l'inverse, faut un truc pudique? Est-ce qu'il faut que le message il soit franc? Est-ce qu'il faut qu'il soit pas franc? Et tout ça, c'est ultra important. Et c'est ce qui fait que ce métier est génial. C'est que s'il y a un truc intellectuel, enfin...
Oui, entre le ressenti.
C'est pas intellectuel, mais en fait, ça l'est, quoi. Il y a un truc.
Intellectuel.
Et puis les gens, tu sais, ils sont fatigués, ils veulent une vibe, tu vois. Et si c'est pas la bonne vibe, ils font stop de l'air. Et c'est là qu'ils te disent, ça sonne variette. C'est pas, il y a pas de musique variette. Ce qui sonne variette, c'est quand t'as pas le vrai sentiment et que c'est fake, tu vois. Et ça, les gens, ils le ressentent. Ils le ressentent, mais grave.
Mais du coup, toi, si justement t'es aussi proche des artistes avec qui tu taffes, ça veut dire qu'il y a des trucs où t'as pas eu la vibe, t'as pas senti le truc, et du coup t'as refusé des projets.
Ah ouais, grave.
Mais qui étaient genre big, tu vois, et c'était des grands noms et tout, et t'as dit ouais, non, bon, en fait, je le fais pas.
Ouais.
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 Ok.
Ouais, ben très vite, quand j'ai commencé à m'investir pour mettre vraiment de moi dans les choses, tout ce qui était justement variette, je pouvais plus le faire parce que je l'aurais mal fait. J'aurais mis trop de vibe. Tu comprends? Ouais. Mais c'est la vérité.
Dévariétisé là.
Ben ouais, parce qu'à un moment tu peux plus. Si tu vas dans ce sens, c'est à un moment tu y vas.
Mais les artistes, au contraire, ils devraient être contents de se dire putain, j'ai un truc qui va être vraiment.
Dévariétise-moi s'il te plaît, Renaud.
Ouais. Tu vois, quand justement un artiste qui est identifié comme variété sort un projet où justement on sent que d'un seul coup il y a de l'authenticité, il y a un truc plus viscéral.
Mais tu peux faire le trajet que dans un sens.
Ok.
C'est-à-dire, tu peux venir d'un truc super stylé et tu peux aller vers un truc plus populaire, plus lissé.
Ouais.
Personne t'en veut parce que on sait d'où tu viens. Si tu viens de l'autre côté, ça sera jamais accepté. On te dira toujours, mais toi, c'était pas ça.
Il y a pas des artistes. Attends, en français, il y en a.
C'est quoi ça me fait penser? Dans ce sens-là, il y en a. Tu vois, Manu Chao. Ouais. On commence avec le truc dans la chambre dégueulasse. On est ultra intègre. Le truc, ça pète. Bah là, il peut assumer être un chanteur populaire.
Ouais.
Les gars qui commencent par le truc
populaire et qui reviennent à l'authenticité
pour retourner à l'autre, les gens ils te font pas de cadeaux.
Dans le dernier épisode de la saison précédente, on a reçu un jeune musicien qui s'appelle Oscar Hemsch, qui est hyper fort et qui avait notamment bossé à un moment avec Julien Doré.
Ah oui.
Parce que Julien Doré s'était dit, vas-y, j'adore Thundercat, j'en vais faire un truc dans cette vibe. Ils ont commencé à bosser là-dessus et tout. Et puis au bout d'un moment, Julien Doré a dit, non, mais en fait, c'est peut-être pas pour moi. Et ça illustre un peu ce que tu dis, je pense.
Et il faut savoir faire un truc qui a pas. Tu vois, il faut pas que ça fasse trop de bruit. Il faut pas qu'il y ait trop de machin. Il faut qu'il y ait peu de bidule.
En fait, chercher, il doit y avoir. Je pensais peut-être. Bon, alors, c'est un peu stretch, mais Henri Salvador. Il était là avec des chansons rigolotes et le mec à un moment donné, il a 108 ans mais il fait le truc.
Ouais, mais Henri Salvador, c'était un quepon à l'époque.
Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai.
Il s'en branlait tout, il faisait son truc, genre. Ouais. Tu vois, c'était pour l'époque, c'était le...
Ouais.
Tu vois, il y a très très peu de.
Il y a pas. Attends, mais je suis sûr, on a au moins un artiste.
Bah, tu sais quoi, on demande aux gens dans les commentaires. Il avait un exemple, mais il ne va pas balancer. Ouais.
Attends, on coupera, François. Juste, moi, je suis curieux là.
Après l'émission, il me dira. Il balancera.
Non.
Il y a. Parce que pour essayer de revenir un tout petit peu à cette espèce un peu de chronologie, de mélange aussi des esthétiques.
Des styles, ouais.
Parce que, il y a Manu Chao. Alors, en plus. Ouais.
En fait. Après avoir donc fait donc Souchon, ça m'a permis aussi de développer un truc. C'est ce que je disais, tu vois, j'ai fait une chanson française qui était plus
de caractère, quoi.
Plus de mélancolie.
Ouais.
Tu vois, parce que pour moi, il y a un truc où là, ça devient intéressant. Là, ça devient profond. Là, ça devient sincère. Là, tu dis des trucs et tout ça. Donc, mais il y a vraiment deux fois où j'ai. C'est hyper prétentieux de dire ça, mais j'ai inventé un style. Et ça a été marquant pour moi, tu vois. Manu Chao, ça n'existait pas, ce style. Tu vois, le truc rock, mais sans rien de rock, déjà, ça n'existait pas.
Tu vois,
c'est très marrant parce que quand l'album est sorti, en France, c'était « Ah ouais, c'est l'album populaire », tu vois. Au Canada, c'était le meilleur album de rock indé.
D'accord.
Le mec, il me faisait, ouais, indie rock, mec, t'as fait le meilleur album d'indie rock. Moi, j'étais là, genre, indie rock. Tu vois? Donc, le truc, c'est là où ça se passe, c'est que il y a une vérité là-dedans.
Et le deuxième? Tu disais, t'as deux fois, t'as inventé un truc, t'as l'impression.
Ouais, le deuxième, non, mais c'est pas, je crois pas que ce soit qu'une impression. le deuxième, c'est avec Feist. Où on a vraiment, pour la première fois, mixé de la folk. Avec du hip-hop soul, mais très fort, quoi, tu vois. Et c'était la première fois que Snoop Dogg, par exemple, tu vois, il disait « Waouh, j'écoute cette jeune Canadienne, là, dans mon tourbus, ça défonce. » Bah ouais, parce que ça tu vois, et nous, on a commencé, avec Gonzo, enfin, je le faisais déjà, mais avec lui, on a encore plus poussé ça, parce qu'on était dans le même truc. On aime la folk, on aime les grandes chansons, on aime Stevie Wonder, on aime tout ça, mais on adore le hip-hop. Donc pour nous, si tu peux pas faire ça sur de la musique, quoi que ce soit, qu'est-ce que soit la musique, eh ben, ça va pas. Donc le truc qu'on a, et là je sais qu'on a vraiment, enfin j'ai participé à un truc qui était nouveau et il y a eu plein de petits après, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, Billie Eilish, pour moi, c'est un petit de ça. elle, elle a grandi en écoutant Feist, c'est sûr. Et c'était la première fois que les deux vraiment se croisaient avec l'attitude, tu vois. L'attitude hip-hop, mettre du cul dans de la folk, tu vois, où le truc devient sexy, alors, mais c'est quand même des pures chansons. Et il y a un groove, et donc ça aussi ça m'a apporté beaucoup, parce que après c'est un peu toi qui sais le faire, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, t'es un peu le...
Mais c'est marrant parce que tu, alors le prends pas mal, hein, mais j'ai envie de dire, d'une certaine manière tu t'appropries aussi quelque chose que normalement on dit plutôt ça relève de l'artiste, tu vois, c'est l'artiste qui va l'incarner, etc. Mais toi tu considères que t'as une part importante dans tout ça?
Ah ben, en tant que réalisateur, c'est comme un réalisateur de film, tu vois. À un moment, on te donne les clés, on te dit, c'est ça le scénario, c'est ça les comédiens, c'est ça le machin, ça raconte quoi, comment on fait, quoi. Et après, c'est toi qui dis plus vite, moins fort, plus triste, plus gay, ta gueule, tac, tu vois, plus court, tu vois. Donc, à un moment...
C'est ça ton rôle.
À fond. C'est moi qui dirige les voix, c'est moi qui dirige... et je fais ça pour tout le monde. Même Gonzalez, quand on travaille ensemble... Je lui produis son jeu de piano. Donc je vais lui dire, ouais, cette partie-là, faut que tu la joues laid back. Là, faut que tu mettes plus d'énergie. Là, faut que tu grooves plus. Tata, là, c'était moins. Enfin, donc, que ça soit un piano solo ou un orchestre avec je sais pas quoi, c'est le même taf en fait. C'est exactement le même boulot.
On s'écoute quand même un extrait de Clandestino, ou d'ailleurs un autre Manu Chao sur lequel tu as bossé, mais qui incarne un peu ce dont tu parlais, ce truc de renouveau, d'avoir inventé d'une certaine manière un style, et puis après un Feist aussi.
Voilà, donc pour Manu Chao, ce qu'on a inventé, c'est un des premiers albums qui a été fait sur ordinateur. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vraiment enregistré sur un ordinateur. Et donc j'ai pu boucler de l'acoustique.
En 98, donc, vous l'enregistrez en 97, j'imagine.
97, exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est de l'acoustique bouclée. Et du coup, ça sonne comme de la techno. C'est pour ça que ça vieillit pas. C'est que le truc, il est tight de ouf. Il y a un truc genre, c'est BPM, BPM, quoi. Il y a rien qui bouge. Et donc, c'est ça aussi qui a créé un nouveau truc.
T'auras un exemple en des morceaux?
Ils sont tous comme ça, hein, mais on peut écouter un morceau que j'aime bien qui s'appelle La Despedida.
La Despedida.
Tu vois, pour moi, tu vois, il faut comprendre ça. Je sais pas si Manu, il écoutera ça, mais ça va peut-être le faire flipper, mais... Voilà, quand j'ai reçu les maquettes de Clandestino, j'ai vu Manu, j'ai fait, ok, lui c'est un globetrotter, ok, c'est genre Tintin sur la lune, quoi, ok. Et donc comment faire, c'est comme un personnage de BD. Et dans ma tête j'étais là en mode, ok, il faut que j'arrive à mixer, ça va vous paraître hyper bizarre, mais dans ma tête c'était tout le temps comme ça. Pour moi c'était, fallait que je mixe Jamiroquai et un truc de dans le côté mec surréaliste, mais hyper... pas surréaliste, mais surhumain, un peu. Une espèce de super-héros, mais en mode BD, tu vois. Et donc, j'avais tout le temps ça dans la tête. Et pour de la musique comme ça, on a envie de bouger ses fesses. Tu vois, sinon, ça serait pas partout où il y a de la plage. Et donc, ça, c'est moi qui le mets. Parce que eux, c'est pas... Tu vois, quand Feist a fait un morceau de folk... Ou quand Manu il fait un morceau genre me gusta la la, me gusta tout, il pense pas à du groove, ouais. Tu vois. Et donc moi, en poussant ça, le truc je le mets à un autre endroit, qui fait que le truc il est plus riche, il est différent,
il change de nature.
Exactement. Et c'est super intéressant. T'es toujours content, hein, quand ça groove plus, hein.
Ouais. Non, mais toi, t'en as pas un qui te dit, ah ouais, mais moi j'étais sur une vibe world music, tu vois.
Ben même world music à fond, tu vois. Ouais. Moi j'ai fait un album pour South George, ouais, par exemple. Ben laisse tomber, ben là c'est que ça, quoi.
T'as fait Trio Joubran aussi, t'as fait pour parler un peu de musique qui viennent d'ailleurs.
Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai même fait un groupe à l'époque, ça s'appelait Sergent Garcia, ça vous dit quelque chose?
Ouais, bien sûr. Ouais,
Sushi La Raman, ouais. Cette indienne.
C'était un succès d'ailleurs.
Maya, il est super ce morceau, il est super.
C'est où Georges, t'as participé à quel album du coup?
Son premier album qui s'appelle Crew.
Okay,
et ouais, c'est pareil, ouais. Bah, on venait venir me chercher parce que le truc c'était enregistré avec il y avait un pandéro, une guitare acoustique et un tchouk-tchouk enregistré dans un appart. Ouais. Et moi, comment je fais pour le faire sonner pour que ça fasse genre, ok, c'est le meilleur album de l'univers, quoi. C'est un peu ça,
c'est
un
ça,
peu
c'est ça l'idée. Défi, quoi.
J'étais, ouais. Bah ouais, puis j'étais du coup, plus ça allait, plus on m'amenait des trucs comme ça. Et tous mes potes, Moki, tout ça, c'est que des gars qui travaillaient dans leur chambre. Et moi, j'en faisais un truc qui faisait qu'à un moment, ça sortait du. Donc j'ai développé ce truc-là, quoi.
Renaud, il faut qu'on écoute ces morceaux. On s'écoute La Despedida alors de Manu Chao ou autre chose?
Ou Mentira. comme ça.
Ah, Mentila. Eh ben écoute, je le vois. Allez, c'est le dernier Mentila, c'est parti.
Mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Il y a un truc qui est ressorti.
Ça loupe,
ouais,
hein.
Tu veux dire un truc?
Ouais, je veux dire un truc. Parce que vous allez peut-être mieux comprendre après avoir écouté ça.
Ouais.
C'est que moi, dans ma tête, du coup, j'étais sur mon ordinateur, j'enregistrais des trucs qu'on faisait nous-mêmes, mais je pouvais les traiter comme des samples de hip-hop. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la musique qu'on jouait, je pouvais la transformer et caler les trucs pour que ça groove de ouf, comme les trucs de hip-hop dans les sampleurs. En fait.
Ouais, c'est ça.
Sauf
ouais.
qu'on n'avait plus à on, du coup, c'était plus.
En fait, tu t'auto-samplais, quoi.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça le délire. C'est-à-dire, j'ai mis des heures à choisir le coup de guitare.
Ouais.
Mais c'est toujours le même. Mais il faut le choisir pour que tu puisses l'écouter genre en boucle pendant 3 jours.
Mmh.
Donc c'est un autre taf, tu vois. C'est une autre démarche. C'est un.
Au moins, t'as pas de problème de droit.
Quoi qu'on a eu des problèmes sur cet album parce qu'on ouais, un truc de ouf. Il y a un morceau qui s'appelle Welcome to Tijuana.
Okay.
Ouais. Et au début, on a juste joué Tequila. Pam 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 pam. Genre ouais. fait au trombone, les mecs qui sont tombés dessus, on en avait pas fait gaffe.
Ah ouais.
Ils ont demandé tous les droits. Ouais. Et un autre truc aussi.
Mais vous l'avez rejoué. Je crois que t'avais le droit de jouer.
Ouais, mais c'est quand même, c'est quand même la musique, quoi. C'est ça. Et nous, c'était une référence, tu vois. On a mis ça à l'intro vite fait. Tu vois, ça revenait même pas dans le morceau, quoi. Et puis aussi un journaliste de foot, un commentateur qu'on a pris d'une radio et qu'on a mis dans le morceau. Et le mec, 10 ans après, il s'est reconnu, genre, ah, c'est WAM, là.
Est-ce qu'il y a un billet à se faire? Oh non. Alors que c'était un hommage, j'imagine.
Ouais, et puis, tu vois, 97, pour toi, tu avais un problème si tu samplais un morceau entier que tu mettais en boucle, quoi. Mais si tu prenais un mec de radio,
Tu te dis, ça, il l'entendra pas.
Ouais, puis même on n'y pensait pas, quoi.
Après, il y a eu la jurisprudence Tonton du Bled, hein, aussi derrière, ouais. 99.
Il y a un truc pour illustrer encore le métier des réalisateurs, parce que c'est un truc aussi qu'on découvre avec toi. Alors, on en a déjà reçu dans cette émission. Hein. Je pense à Frédéric Lowe, par exemple, qui fait aussi ce métier. Mais voilà, pour rentrer vraiment dans les exemples, dans le détail, il y a une interview intéressante d'un artiste assez jeune qui s'appelle Nelik, avec qui tu as travaillé,
ouais.
et qui est passé dans le média Grunt, qu'on salue, et qui raconte un peu sa collaboration avec toi. Je ne sais pas si tu as vu.
Si, je l'ai vu.
T'as vu cette interview et il dit des trucs intéressants. Alors, par exemple, il dit quand j'ai débarqué, je ne savais pas trop ce qu'on allait faire avec Renaud, c'était quoi son métier et tout. Et puis, donc, on a sorti toutes les maquettes, machin, etc. Et il dit la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tout refait. C'est-à-dire que tous les morceaux, chaque stem, etc., on a tout rejoué avec des nouveaux instruments, etc. C'était hyper fastidieux apparemment, mais il a dit à chaque fois j'avais l'impression qu'on avançait effectivement. Mmh. Et puis quand fallait choisir des sons, parce que c'est ça aussi faire de la musique, c'est dire bon effectivement quel kick je mets, quel son de synthé, machin, etc. Est-ce que je pars sur des presets, est-ce que je les fais moi-même. Et il disait en fait le fait d'avoir ton assistance à toi. Et ben tout d'un coup ça devenait facile. Eux qui se pétaient la tête genre putain mais quel son on va utiliser là pour faire ça. Voilà notre intention, on sait pas comment l'atteindre exactement. Mmh. Et ben c'était toi qui leur disais c'est bon les gars, je sais ce qu'il faut.
C'est ça. En fait c'est trouver le bon décor par rapport à ce que les gens y racontent. Mmh. Tu vois, si t'es en train de faire un truc de lover, fais pas un truc tout suite, fais pas de la musique toute sucrée derrière. Mmh. Sinon il y a pas de contraste. Donc à un moment il faut contraster sinon tu vois si. Un truc super pathos, si tu fais un truc super dark avec un morceau qui est là, genre j'ai mal aux couilles et tout, c'est un moment. Hein, à un moment, ça marche pas, tu vois. Tu peux pas écouter, tu vois ce que je veux dire. C'est genre, t'es là, pff, c'est trop, quoi.
Ouais.
Donc, c'est tout ce jeu-là qui est super intéressant, c'est de trouver
l'équilibre.
L'équilibre par rapport à est-ce que ça doit être crade, ok, parce que là.
Mais il n'y a pas des fois, genre, où toi, t'arrives, donc t'as une proposition artistique et tu dis au gars. On va pas le faire comme ça, et lui dit ouais mais moi je veux que ça sonne comme ça en fait, tu vois, genre les gars qui sont vraiment accrochés à une esthétique qui est peut-être même pas l'esthétique réellement entendable, mais qui est celle que eux pensent avoir, tu vois. Notamment dans le rap, parce que moi je le dis toujours, le problème du rap français à une certaine époque, c'est que les mecs ils avaient zéro culture musicale, ils voulaient juste faire refais-moi du Mobb Deep, refais-moi du Wu-Tang, refais-moi du Group Home, tu vois. Donc ouais, en fait, ouais, les mecs ils ont zéro propale, tu vois, artistique, et toi tu vas peut-être arriver, t'entends le mec, tu dis ok, mais on va plutôt le tourner comme ça, et lui, bah du coup, ça sort de ce qu'il s'attendait à entendre, parce qu'il voulait faire du Mobb Deep. Et en fait, c'est pour son bien, mais lui, il l'a pas encore compris.
Ça, c'est une grosse partie du travail de réalisateur, c'est de
convaincre en fait,
de scanner les gens, mais pas pour les juger, mais pour comprendre qui ils sont. Et après, tu sais quelle méthode t'as appliquée pour les emmener où tu veux. Et c'est pas fait avec du cynisme, c'est fait justement pour que ça soit fait sans douleur, que ça soit toujours en avançant, que le truc soit toujours mieux. Il y a des mecs à qui tu peux dire ouais, elle est pourrie ta prise, laisse tomber, on recommence demain. Et le mec fait ah bon, ouais, bah, ok, bon, on recommence demain. Et il y en a d'autres, il faut passer par sept chemins pour.
Oui, parce que tu peux dire à un artiste c'est pourri, ça tue sa confiance, quoi. Ça peut arriver, ça aussi, j'imagine.
Chez certains, oui. Ouais. Mais chez d'autres, non.
Et ça, comment tu le jauges? C'est en passant du temps avec eux, c'est...
Oui, bah, parce que je suis habitué. Maintenant, il y a un truc humain que je sens tout de suite, tu vois. Il faut apprécier. Tu vois, souvent. Tu veux être l'inverse de ce que t'es. Donc, Iggy Pop, il rêverait d'être Brian Ferry. Et Brian Ferry, il rêverait d'être Iggy Pop. Il rêverait d'arriver sur scène et d'hurler. Ils sont tous comme ça. Ouais. Donc, il y a un moment où il faut arriver à tu peux les écouter, mais il ne faut pas les écouter. Et il y en a que tu peux écouter, d'autres qu'il ne faut pas du tout écouter. Tu vois? Parce qu'il y a des fois, ils t'arrivent, ils disent « Ouais, moi, je veux un truc comme machin, sur Vénère. » Et tu regardes le gars, tu fais « Ok, Vénère, pour toi, c'est genre... » pas vénère en fait. Et d'autres où tu vois, donc c'est ça parce que sinon tu,
mais alors là, c'est
tu
plus
te prends, tu te prends vite des portes, quoi.
T'as un rôle de psy, quoi, quasiment.
Ouais
c'est combien de pourcents, même du taf, à ton sens, l'humain, disons, de manière générale,
De savoir gérer une journée pour qu'elle se passe bien, qu'on a l'impression que ça soit facile, et arriver à un résultat, c'est 30-40%, je dirais.
Ouais, on n'est pas loin de la moitié du taf, qui est vraiment ce côté d'avoir
Ouais. Et c'est pareil pour les musiciens. Tu vois, il y a des musiciens avec qui tu peux être super direct, d'autres où il faut y aller tout doux, tu vois. Et ça, c'est mon travail qui se révèle eux-mêmes, tu vois. Et c'est une partie du travail que j'adore. Parce qu'ils me disent tous à la fin, ouais, on a appris, maintenant nos maquettes elles sont mieux, et machin, et bidule, tu vois, ça me fait trop plaisir. Donc c'est comme dans la vie, quoi, t'as des personnes où rien n'est dit frontalement, et tout est dit par message interposé, tu vois, genre, quand t'as un gars qui rentre dans une pièce qui fait, j'espère qu'on fait des tubes ici, bah il faut comprendre que le gars il est vénère et qu'il a envie que tu défonces le truc, tu vois, et c'est juste une petite phrase. Ouais. Et d'autres, ils vont te dire des dingueries, et tu sais que il faut être hyper c'est super intéressant, mais c'est pareil pour un réalisateur de film, hein. Tu vois, il a les mêmes galères, quoi. Il a le cadreur, comment on parle à ce cadreur là pour avoir ce que tu veux et pour que le taf il soit bien fait et que ça soit pas une souffrance, quoi, tu vois.
C'est vrai que tu vois, on parle souvent des, enfin tu vois,
la gestion humaine, le
métier de réal film, c'est quelque chose qui est vraiment perçu par le public, les gens comprennent ce que ça veut dire, tu vois. On a des réals caractériels, des gens qui sont en mode c'est impossible de bosser avec ce metteur en scène parce qu'il est ignoble, il est odieux, il parle mal, machin, etc. On n'entend pas ça, tu vois, sur la musique,
c'est exactement la même chose. T'as des réalisateurs qui ont pas ce truc parce qu'il faut il faut aimer l'autre, pour bien faire son travail, tu vois, et il faut pouvoir voir les défauts, mais sans les juger, parce que le pire pour eux, c'est s'ils se sentent jugés. À partir du moment où ils se sentent pas jugés, tu peux aller très loin dans ce que tu dis, parce qu'ils comprennent que c'est pour le bon truc. Mais des fois, ça prend 2 jours pour qu'ils comprennent ça, et des fois ils comprennent ça à la fin de l'album.
Ah ouais, donc c'est une douleur en fait.
Non, parce que à aucun moment je les aurais mis dans la situation.
D'accord.
Où ils se retrouvent acculés.
Confrontés au
truc. Exactement.
Ouais,
tu vois.
Okay.
Philippe Catherine, je peux lui dire ce que je veux.
Ouais.
C'est jamais pris comme pour.
Un
jugement perso, tu vois. Je lui dis vas-y, laisse tomber. T'y es pas là aujourd'hui, on fera ça plus tard. Ah bon, et puis on passe à autre chose, tu vois.
Ouais.
Tu peux galérer devant lui en train d'essayer de faire une guitare à pas trouver. Il reste là, lui-même n'a aucun. Tu vois, il y a des artistes où tu peux pas montrer que tu galères.
Ouais. Ah, c'est marrant, c'est Medellin qui nous parlait de ça.
Ça les stresse. Et d'autres où ils en ont rien à cirer, et justement, ils comprennent que ça fait partie du truc,
ouais.
et ils s'en foutent, et tu sens aucun jugement aussi de leur part.
Ouais.
Mais tu peux pas travailler si tu sens leur, jugement. Donc, comment arriver là où tu veux sans avoir. Donc, c'est tout un.
Ouais,
c'est ça, c'est ça. Et c'est intéressant parce que ça t'aide à gérer la journée, mais ça t'aide aussi à gérer le son. Parce que du coup, tu les comprends mieux, tu vois.
Mmh.
Et tu sais qui ils sont. Et donc, à la fin, ils comprennent pas. Hop, ils comprennent. Hop, ils sont plus là. Parce que pour eux, à un certain niveau, c'est fini. Toi, tu continues. Mmh. Et à la fin, ils sont là, genre, waouh, tu vois. Mmh. Et parce que ça leur ressemble de ouf. Et souvent, les albums où il se passe quelque chose, c'est parce que tu t'es pas foiré entre ce que t'as fait comme vibe et la personne, quoi.
Mais du coup, ça t'arrive, par exemple, que tu commences à bosser.
Ouais.
Et en fait, c'est arrivé à. Après avoir fait plusieurs morceaux, tu te rends compte que là, t'as le déclic et que t'as compris le truc et que du coup, tu reviens sur ce que t'as fait au début parce que, tu vois, genre le cheminement.
Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr.
Ou tu redis, bon, ouais, finalement, on le refait parce que.
Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. La première impression, quand t'es habitué, la première impression que tu te fais, c'est souvent la bonne. Après, des fois, effectivement, tu dis, ah ouais, en fait, ok, on peut aller jusque-là avec lui. Et du coup, tu reviens et tu fais, ok, je vais pousser ça et ça et ça. Mais.
Il y a un élément qui est revenu comme ça un peu régulièrement dans la discussion. Par exemple, quand tu parlais de Clandestino en disant que vous l'avez fait entièrement sur ordinateur, etc. On a compris que ta vision du son et de ton métier, elle a forcément évolué au fil des rencontres, voilà, des albums, etc. Ça vient aussi de ton enfance entre différents pays qui a joué.
Ça a joué énormément.
Voilà, sur ton appétence pour plein d'esthétiques, plein de genres, plein d'univers différents, etc.
Voilà, quand je fais de la musique latine, pour moi, c'est pas exotique. Voilà, je l'ai vécu le truc, la musique Moyen-Orient, c'est pareil, tu vois. J'ai grandi avec ça, donc. La vibe, elle est super importante pour eux, tu vois. Ouais. S'ils sont pas en train de pleurer, c'est que t'as foiré. Non, mais c'est vrai. Tu vois, donc comment tu fais pleurer?
Ouais.
Tu vois? Et donc ça, c'est les fréquences. Les fréquences, la prod, le truc, comment. Moi, je peux. Non. C'est le traitement.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Mais oui, tu vois bien que même un orchestre classique, suivant le conducteur, ça va pas du tout être le même truc, tu vois. Si les mecs ils commencent à dire, ok, on va jouer tout trois fois plus fort et tout beaucoup plus appuyé, une même mélodie qui paraissait super légère peut paraître ultra vénère.
C'est du Wagner.
Exactement. Donc, et le choix des instruments que le mec va prendre va faire que ça va être des sons doux, des sons vénères ou des sons machin. Donc,
toi, il y avait pas ce regard un peu touriste colonial presque sur ces musiques
pour toi.
C'est genre la musique normale
quand t'es enfant il y a pas de
oui c'est vrai que c'est la musique enfant, tu
prends
écoutes
le truc
ça
au premier degré et ça roule ma poule quoi c'est genre
pense à tous les enfants qui ont écouté la Musclada du coup et qui se disent putain
tu les as ruinés dès leur jeune âge, le banger
non mais c'est vrai que le fait de scanner d'avoir l'habitude de ça. Et c'est aussi beaucoup lié à mon enfance parce que il fallait que je m'habitue. Tu vois, j'arrivais dans des endroits, j'étais le seul blanc, mec. J'étais le seul blanc vraiment, quoi. Donc, j'étais l'équivalent, il y a 30 ans, du seul mec basané qu'il y avait à Paris, tu vois, dans la classe où tout le monde te regarde. T'es là, tu vois. Et donc, c'est adaptabilité. Et j'étais dans des pays qui étaient quand même un peu extrêmes, que ça soit au niveau des animaux qu'il y avait sur place, les gens, la vibe, le truc, et il faut s'adapter et il faut. Et tu peux pas arriver avec ta grande gueule, il faut que tu.
Ouais, tu viens pas leur apprendre.
Non. Parce qu'ils te demandent déjà de voir si tu sais la fermer, tu vois, c'est la première chose que t'apprends déjà, c'est à la fermer. Et ben, tous ces trucs-là, ça m'a aidé évidemment pour faire ce métier, quoi.
Il y a cette enfance, il y a les rencontres, il y a quand même un élément essentiel dans le rapport au son, dans la manière dont on traite le son, c'est les outils.
Ouais.
Et ça, il faut qu'on en parle un peu quand même. Et en premier lieu, parce que c'est un outil, c'est le studio. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est que c'est en 96, 97 que tu t'installes vraiment à domicile à Ferber.
Exactement,
Donc, dans ce studio mythique, ces studios plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, toi, t'as vraiment le studio B, il y a que toi qui y es tout le temps. C'est ton studio
là,
tous les jours.
Ça fait 20, plus de 20 ans où c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est mon bureau, quoi.
C'est un outil, donc, le studio en tant que tel.
Ouais, c'est un endroit. C'est un endroit mythique. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un album du début à la fin. J'ai une pièce qui sonne la mort. J'ai de quoi mixer.
C'est plus de 80 mètres carrés le studio B, c'est ça?
Il fait 100 mètres carrés en gros. J'ai 35 mètres carrés de cabine, enfin de control room, et j'ai genre 70 de de pièces d'enregistrement avec quand même entre 3, je ne sais plus exactement, mais c'est pas loin des 5 mètres de hauteur. Donc tu vois, j'ai du volume. L'acoustique a été faite dans les années 70, donc c'est la bonne, ça défonce. Le matos, les micros, j'ai tout ce qu'il faut en vrai. J'ai des bons instruments, j'ai
t'as
des
machins. T'as accumulé toi aussi des trucs pour toi en ces 20 ans ou tu te reposes beaucoup sur ce qu'il y avait déjà avant T'acquiers régulièrement des trucs?
Pas trop, non. Oui et non, quoi. Les plugins, hein, par la force des choses, les trucs bien que tu vois, j'en ai, mais depuis milieu des années 80, fin 80, le matos il a pas évolué dans le bon sens.
Ah ouais, tu trouves?
Pas trop, non.
C'est où tu parles du matos, du hardware analogique?
Non, ouais, du hardware analogique, exactement. On est devenu que de plus en plus précis et de plus en plus bright. Mmh. Et ça va à l'inverse de ce que je vous disais au début, où les aigus, on n'a pas envie qu'ils brillent dans la vraie musique.
Dans la vraie musique.
Non, c'est vrai. Donc, tu te retrouves avec des trucs qui sont qui montent ultra haut, des machins et des minutes, mais à la fin, tu t'enlèves. Donc, voilà, le... Par contre, j'ai du matériel qui ça va des années 50, ouais, des années 50 à début 2000, quoi. Après, tout ce qui est sorti après, ce qui est intéressant, c'est les plugins.
Même des effets numériques non, tu vois, tu prends tout en plug à ce moment-là.
Ben, ouais. Et l'intérêt du plug, c'est pas quand ça copie le matos que j'ai, mais quand ça fait des trucs nouveaux. Mmh. Parce qu'il y a plein de trucs nouveaux qui défoncent. Il y a plein de trucs qu'on pouvait pas faire avant parce que tu vois, les chorus, les machins, les phasers, les trucs, il y a des trucs avec des sons absolument géniaux, et ça c'est faisable que parce que c'est en plugin. On pourrait pas le faire de manière physique. Et c'est là que c'est super intéressant.
Tes grandes étapes de matos quand même, de trucs que t'as pu découvrir ou qui ont un peu changé ton son, qui t'ont accompagné sur des albums, tu te dis putain, là j'ai trouvé une patte, un truc, ça c'est mon outil, c'est à moi.
Je suis un peu un enfant gâté, quoi. J'ai le meilleur élément de chaque marque dans mon rack, quoi. Donc j'ai les meilleurs EQ, c'est des vieux Pultec des années 50. J'ai le meilleur EQ genre Sonriquin Massenburg, qui est ce qu'il y a de mieux. Donc il y a un truc où c'est pas les outils qui font que tu deviens bon ou pas bon, ou que t'as un son ou que t'as pas de son, c'est tes oreilles. Ça veut dire un charpentier, tu lui fais faire un toit, s'il n'a pas les clous numéro 6 et le marteau numéro 7, il fera quand même un bon toit. Mmh. Un mec qui ne sait pas faire un toit, mais qui a les bons outils, il ne va pas te faire un bon toit. Ouais, donc à un moment, moi tu me donnes n'importe quel outil, je vais arriver au même résultat.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait comme... Alors c'est peut-être,
oui, mais,
10%, c'est peut-être 10%.
Oui, mais, c'est mais... en vrai, c'est de la branlette, c'est un truc de riche. Tu vois, c'est de se dire, ouais, super, j'ai le meilleur EQ de l'univers, super. Oui... Si, il y a la console qui est une Neve, c'est un son bien particulier, hyper ricain, hyper chaud, hyper machin. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de mon son. Et il y a certaines fréquences que je pourrais pas mettre dans la musique que je fais si j'avais pas cette console. Et si j'avais une autre console, je ferais un son beaucoup plus dur, beaucoup moins... Vous connaissez Benny Sings?
Ouais, bah, qui t'a travaillé.
Ouais, voilà. Ben, ça,
qui est sur ton album aussi, d'ailleurs.
Ça sonne vraiment comme ma console, quoi. Ça sonne vraiment où c'est patate, chaud. La console, c'est vrai que la console est un peu une pièce maîtresse du truc. Mais en vrai, même si j'avais une autre console, mais oui. Parce que ce qui est... En fait, on oublie, tu vois, c'est le. Dans le cinéma, comme vous disiez tout à l'heure, tout est hyper bien expliqué. On comprend qui fait quoi, le cadreur, le maquilleuse, le machin. Là, on comprend rien. Personne comprend rien. Mais en vrai, c'est exactement les mêmes questions que tu dois te poser. C'est-à-dire, c'est où est-ce que je dois aller?
Ouais, après, quand même, donc, ma caméra et mon objectif, je sais que ça va avoir une belle incidence quand même sur mon image finale, tu vois. Alors, c'est pas le cadre.
Tu crois vraiment que si c'est...
Ça donne du grain quand même.
Oui, mais là, tu pars d'un truc où moi, j'ai pas ce problème, parce que moi, je travaille que avec des trucs qu'on dure. C'est ça. C'est, évidemment, si je repars avec un Pro Tools, avec une vieille carte son dégueulasse, bon là, je vais commencer à détruire ce que je suis en train de faire, quoi. Mais à un moment.
Oui, pour faire l'analogie, ce qui reste important, c'est le cadrage, c'est tes plans, c'est ce que tu racontes, évidemment.
Exactement, et surtout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un très bon mix qui défonce, mais qui n'a pas la bonne vibe, on va te dire que ton mix, il est dégueulasse. Tu fais un mix avec une vibe qui défonce musicalement et qui est la bonne vibe, mais le son, c'est pas oufissime, tout le monde va te dire, ouais, il chante, mais ton mix. Vraiment.
Ça s'appelle le Wu-Tang.
Ouais, mais c'est vrai. Mmh. Hein, c'est
mais du coup, tu te mets des fois des petits défis, genre ouais, ouais. Sur ce truc-là, je vais essayer de rester.
Ouais, grave. Je me, ouais. Ouais, ouais. Il y a eu une grosse étape entre mes 22 et mes 30, on va dire, même un peu plus, peut-être 34. Je compressais tous mes mix, toutes mes prods, vénère. Mmh. Et je comprenais pas parce que quand je faisais mes balances, je trouvais ça super et tout, et je rajoutais le compresseur et je me disais, ouais, c'est plus patate. Et à chaque fois, je me disais, ok, c'est plus patate, mais ça groove moins. Mmh. Tu vois, c'était genre, mais t'avais plus les notes mortes, les tic 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 tic, les toutes les trucs de volume, de trucs qu'il faut que t'as envie de bouger tes fesses, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai arrêté de compresser mes mix. Et depuis, je mets aucun limiteur, aucun compresseur sur le mix. Et ça fait une grosse, grosse différence dans le résultat.
Tu le fais individuellement sur les
exactement.
Pistes, mais pas sur le master.
Ça demande beaucoup plus de finesse et ça demande beaucoup plus d'expérience parce que c'est comme si tu travaillais... Tu vois, quand tu mets un limiteur ou un compresseur sur un mix, c'est comme si ça te mettait un cadre et puis tu peux pas bouger du cadre. Donc ça t'aide à rester genre dans un cadre prédéfini. Alors que quand t'as rien... C'est infini. Si t'as envie de mettre la voix à Burnt à un endroit, un solo de sax hyper fort, un truc, un machin, c'est beaucoup plus... t'es beaucoup plus libre, mais par contre, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il y a personne qui dit hop, 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 t'as pas le droit, reste tranquille. Tu vois. Et c'est marrant parce que je me suis mis à arrêter. Donc pour moi, c'était un gros changement parce que c'était une grosse prise de risque, tu vois. Mais les compresseurs et les limiteurs, ce que ça fait, c'est que ça rentre le son dans l'enceinte. Ok. Quand tu n'utilises pas ça, c'est l'inverse que tu fais. Le son, il sort de l'enceinte. Tu vois. Et c'est une interview de Bruce Whedon, qui est le mixeur de Quincy Jones à l'ancienne. C'est lui qui faisait tous les Michael, les machins. Qui disait, ouais, les gars, on est d'accord, hein, les compresseurs, les limiteurs, c'est pour les gars qui savent rien et tout. Ça m'avait vexé de ouf. Je suis dit, bâtard. Tu vois. Du coup, j'ai fait, ok.
J'arrête.
Okay, j'arrête tout ça, là. Je crois que c'est le moment. Et c'est vrai que je me sens beaucoup, beaucoup plus libre. Et ça, Benny Singh, justement, il y a l'album qui s'appelle City Pop.
Vas-y. Oui, que t'as fait, que t'as réalisé.
Ouais. Et ben, il y a aucun limiteur et aucun compresseur du début à la fin de la prod. C'est-à-dire, même au mastering, on a dit au gars, t'as pas le droit. En fait, monte jusqu'à ce que ça sature, mais t'as pas le droit d'y toucher, quoi.
Il y a un morceau que t'aimes bien sur City Pop, on se l'écoute.
Ouais, grave, It's Not Enough.
Allez, Not Enough, exactement. Allez, on se l'écoute. Ça groove,
ouais,
en effet.
Ouais, super cool. Hein. Et donc bah, là, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de limiteur, il n'y a rien.
Pas sur le général.
Et ouais, après, je compresse. Piste par piste.
Et en fait, en faisant une balance qui est ultra précise, tu arrives à redonner cette impression de compression. Mmh. Parce que le truc, il est tellement au bon niveau que ça paraît ultra compact.
Mais c'est plus fastidieux, quoi.
C'est plus fastidieux, mais tu vois, le truc qui fait waouh, qui arrive là à un moment, bah, ça, je pourrais, s'il y avait un compresseur, il y a un moment où je peux pas le mettre aussi fort, en vrai. J'aurais pas pu le mettre aussi fort. Ça aurait été bouffé par la compression. En fait, c'est le kick qui te dit non, quoi. Chaque fois que tu veux montrer un truc, non. Tu vois, c'est énervant.
Il y a quand même un point, on a compris que le matériel faisait pas tout, que il a pas tant évolué ton matériel, t'as des super bases, etc.
Mais parce que ce qui a évolué, c'est l'apport du numérique quand même. Ouais. Ça, c'est même pour Clandestino, j'aurais jamais pu faire un album de techno rock indie latino, je sais pas quoi, enfin, si j'avais pas eu ce matos là.
Bah, j'en arrive à ça parce qu'il y a quand même, tu vois,
même les albums de Jane Birkin, j'ai pu aller super loin dans les edits, ce que je pouvais pas faire avant. Donc c'est un apport de malade. C'est-à-dire, moi, le jour où j'ai pu rectifier des erreurs de musiciens mettre des grooves comme je veux et tout ça, c'est le bonheur absolu.
Oui, t'es connu pour ça, toi, où les drums, etc., bah t'y vas, allez, tout le long, et tu décales une milliseconde, deux millisecondes, et puis le deuxième kick, et puis tout le long.
Alors, ça m'arrive de faire, ouais, ça m'arrive beaucoup de faire ça si j'ai de la musique live, et je m'adapte aussi au son. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des trucs qui sont carrés, quoi. Ouais. Donc, si tu fais tout carré, il y a un programme qui s'appelle Beat Detective. Mmh. Et ça, c'est horrible, parce que ça marche pas quand tout est carré. Mais par contre, quand tu connais la science du jeu, ce que faisaient les mecs de hip-hop avec les sampleurs, où ils décalaient, ils mettaient au fond, devant, suivant les éléments qu'ils rajoutaient, c'est ça qui va donner du groove.
C'est marrant, parce que c'est ce que disait JD. Sur la cantise, parce que avec les sampleurs est arrivé la cantise qui te calait tous les trucs,
tout sur le bon temps,
sur la mesure, ouais.
Voilà, alors la cantise, pourquoi pas, mais il faut pas que les sons ils soient coupés pareil. Et là ça devient intéressant. Mais après tu peux pas le faire aléatoirement, ça c'est une science de savoir sur quel morceau, par rapport à quelle mélodie est jouée, si la mélodie elle doit être jouée devant ou derrière. Ça c'est une science.
C'est-à-dire qu'il y a la mesure, il y a le temps qui tombe et on est un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, et ça change le ressenti en tant qu'auditeur.
Je vais t'expliquer un truc très simple. Par exemple, tu prends un beat de hip-hop, si tu mets la basse sur le beat, t'auras juste l'impression d'avoir un truc carré. Si tu mets la basse au fond, tu vas avoir l'impression que la batterie va plus vite et qu'elle tape plus. Tu vois. Et ça assoit le beat. Et donc, et après, exactement. Et donc, c'est pour ça comme j'expliquais, quand je fais du hip-hop et des trucs genre super carrés, c'est pas pareil. L'album de Nelik, je cale le truc, et après c'est calé, quoi. Mais c'est bien calé, donc je vais me prendre la tête à ce que les hits de synthé ils soient pile sur le kick, mais la basse elle soit au fond, et puis l'arpeggio qui est derrière, bah lui il est carrément ultra au fond. Ça c'est vraiment de la science de. Enfin, c'est le hip-hop et les sampleurs qui ont amené ça, parce qu'on a pu expérimenter avant. C'est pas vrai, à l'époque des Beatles, certainement que le réalisateur il faisait son boulot et il disait déjà toi tranquille, joue un peu plus au fond, toi. Mais c'est pas un truc que tu peux adapter de manière définitive sur chaque morceau. Encore une fois, il y a des riffs de basse et il faut qu'ils soient sur le pile calé, et d'autres riffs où il faut qu'ils soient au fond. Et ça, c'est quand tu ressens la musique. Et que donc, parce que c'est une grosse erreur que font les gens qui font des beats aujourd'hui, c'est de tout quantiser. Si c'est, encore une fois, c'est pareil que l'émotion dark avec un instru gay, où c'est pareil. C'est-à-dire que si tout est calé pareil, ça fait plus de musique, en fait. Et il faut c'est qui avance. Mais s'il y a personne qui avance, il y a personne laid back. Vous comprenez. Donc même dans les beats de batterie, il y a des charlets, et donc le qui découpe le temps, ben des fois il faut la mettre au fond suivant un certain rythme, et c'est la caisse claire qui doit être bien devant, et des fois c'est l'inverse, faut que la charlet c'est elle qui fait avancer le beat. Et ça c'est suivant le tempo, suivant le morceau.
Ça dépend de...
Exactement, ouais, et c'est
y
là
y
où
il y a pas une formule.
Oui, mais c'est là où il y a des gens compétents et avec de l'expérience et qui comprennent ça, parce que tu vois Michael, tout est joué et ils pouvaient pas éditer comme on éditait à l'époque. Moi, j'ai connu l'époque avant l'ordinateur.
On était sur la bande.
Donc voilà, on éditait, mais c'était pas, on pouvait pas être aussi précis. Et donc ça, je suis content d'avoir vécu cette période-là, parce qu'aujourd'hui, quand je me retrouve à faire, à produire des albums où ça joue vraiment, ben, je sais comment faire, tu vois. Je sais à qui dire devant, à qui dire derrière, à quel musicien. Je lui dis, toi, cette note-là, bien sur le temps, mais la phrase d'après, faut que ce soit plus au fond et blabla. Enfin, c'est tout un truc, c'est super intéressant, parce que même dans les orchestres, encore une fois, un orchestre classique, le mec quand il fait ah toi calme-toi et tout ça, et ben c'est pareil, c'est dans l'orchestre les basses elles sont derrière parce que c'est censé être les trucs qui sont on les entend en retard dans un orchestre parce qu'elles sont derrière. Vous comprenez? Et donc c'est parce que elles ont déjà leur rôle de mettre le truc bien au fond et de bien asseoir. Et tout ce qui doit aller vite, ben c'est devant. Donc le chef d'orchestre, il passe sa vie à faire groover ça en disant toi moins vite, toi plus vite, toi tranquille, toi. Et c'est hyper intéressant, parce que ça rejoint exactement ce que font toujours d'ailleurs les conducteurs d'orchestre. C'est un boulot de mixage. moins fort, plus fort, plus rapide. Là, il faut mettre la pêche. Et nous, c'est ce qu'on fait, en fait. Alors, quand tu mixes, tu recrées une courbe d'émotion. Tu vois, et c'est ça, que c'est vraiment ça le boulot. Et la courbe d'émotion raconte l'histoire.
À l'inverse de ces trucs.
Excusez-moi, là, je suis
Non, mais c'est très intéressant.
Ouais, mais
on aime franchement, le chef d'orchestre conducteur.
C'est le mixeur d'aujourd'hui. C'est le mixeur d'aujourd'hui. C'est ça, c'est sûr. Et en tant que mixeur, tu es le filtre entre la musique et les auditeurs. Et le chef d'orchestre, il est juste là pour qu'il y ait la bonne bouffe, pour que les gens ils comprennent le concert.
T'as même ta spatialisation qui est déjà faite.
Exactement.
Il y a quand même aussi, je comprends là, toi tu t'attaches globalement à ce qui est de l'humain un peu derrière tout ça, tout ce qui est trop automatisé, ça te plaît moins. Après il y a aussi l'industrie et les artistes qui demandent parfois aussi de l'automatisation. Je pense, est-ce que t'as dû par exemple t'apprivoiser complètement Autotune? Est-ce que tu mets beaucoup plus de Melodyne que tu ne le mettais à une époque aujourd'hui pour corriger les voix?
Dès que j'ai eu Autotune, je m'en suis servi tout de suite et je fais pareil que pour les batteries. C'est-à-dire que je laisse pas la machine choisir. C'est moi qui dis ok, ça c'est trop bas. Je prends le truc et tu le montes. Et je monte ce que j'ai à monter. Mais s'il y a un truc avant qui était un peu bas, mais je trouve ça stylé, eh ben je le change pas. Et j'ai eu la chance d'écouter. Parce que comme on n'avait pas d'ordinateur avant, on passait notre temps à écouter. Et on n'avait rien qui nous disait c'est faux, c'est juste. Donc il fallait que notre seule référence, c'était nos oreilles. Ah là, ça sonne bizarre. La voix est fausse. Ok, on la met juste. Alors que là, parce que ça rassure, on quantise tout, on beat détective tout, on met tout dans l'autotune et comme ça, c'est bien juste. Ouais, mais il n'y a plus d'âme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des instruments qui sont parfaitement accordés, c'est horrible. Ça veut dire, ce qui crée la profondeur dans le son et dans l'émotion, c'est quand tu vas avoir, par exemple, un pad de synthé qui est un tout petit peu bas. Et par contre, elle, la voix, elle est bien juste. Ben là, ça crée de l'émotion.
On voit d'ailleurs sur les synthétiseurs, il y a toujours un bouton détune pour justement un peu les accorder. Et tout de suite, ça donne une vibe différente.
J'ai un de mes cousins qui a un Rhodes. Et il m'a dit, le challenge, c'était de trouver un Rhodes en bon état, tu vois. Et mal réglé comme il faut. Parce qu'en fait, si tu fais venir un mec et qu'il te le règle comme il faut sur les notes, en fait, ton Rhodes, il sonne que dalle.
Un très bon accordeur de piano, et il y a des notes dans la gamme par rapport à ce qui est joué, il va les faire un peu plus haut et un peu plus bas parce que suivant les accords, on a envie qu'il y ait certes il y a des notes qu'on a envie d'avoir un peu basses. Un piano, si on met toutes les cordes justes, ça sonne pas. Non, il y a vraiment une science de ça.
Tout comme la guitare est un instrument qui de base n'est pas juste. Ouais. Et c'est normal. Enfin, ça fait partie de l'instrument, quoi. Il n'est pas parfaitement juste.
Tout à fait. Mais quand t'as la responsabilité d'un projet, ça rassure tellement de tout mettre juste.
Ouais, bah oui.
Tu vois, comme ça, t'es sûr de pas avoir raté un truc au lieu d'écouter.
Tu sais d'où il vient le Rhodes de Renaud? Renaud, il en a un de Rhodes dans le studio. C'est celui Ray Charles a joué dessus. Ils bossaient ensemble et puis il s'est dit tiens, je vais récupérer le Rhodes derrière. Il y a pas un truc comme ça?
Si, mais je bossais pas du tout avec lui.
C'était pour Didier Bridgewater, ça, non?
J'ai bossé avec lui après, avec Didier Bridgewater. Mais quand le Rhodes, je l'ai eu à mes 18 ans. J'étais assistant, c'est mon premier boulot d'assistant. J'étais stagiaire, quoi, dans un tout petit studio à Paris qui s'appelait le studio Damien. Qui était le studio de Balavoine. Et quand j'y étais, c'était plus le studio de Balavoine. Mais c'était un studio un peu marrant parce que il y avait pas mal de gens intéressants qui venaient. C'est là où j'ai rencontré aussi Vladimir Kosma pour la première fois. Il venait faire des musiques de films là dans ce petit studio.
Qui t'a travaillé après?
À Guillaume Tell où j'ai fait pas mal de séances d'ingénieur avec lui. Et tout ça pour dire.
Le Rhodes.
Et donc j'étais stagiaire dans ce studio et le patron du studio avait les studios Damien et une boîte qui s'appelait Presta Music qui était le plus gros loueur de matos de l'époque. Donc ma moitié de la journée c'était je faisais assistant sur une musique de film pour Vladimir Kosma ou peu importe quoi et le soir je pouvais me retrouver à aller chez Sacré Soirée livrer le matos tu vois pour la soirée quoi. Et donc à chaque fois j'avais repéré que Ray Charles, il demandait toujours ce Rhodes avec ce numéro-là, et que l'autre, avec son piano, il voulait toujours ce Bösendorfer, parce qu'ils avaient vraiment mais une tonne de matos. C'était pas le petit loueur, c'était les gars venaient pour du vrai matos, quoi. Des clavinettes, ils en avaient, je sais pas, 20, les Rhodes, c'était 30, des pianos, ils en avaient 40, enfin, c'était, je te parle de gros pianos. Et 88, donc, c'était l'avènement du MIDI et des synthés. Mmh. Donc tout ce qui était Rhodes, clavinette, tout ça, poubelle.
Ouais.
Ah bah ouais, poubelle. Et donc le gars a fait une vente, le patron de Presta Music a fait une vente aux enchères pendant que j'étais stagiaire à l'époque, tu vois, du matos. Et c'était 500 francs le Rhodes.
Oh là là.
500 francs.
C'est dégueulasse. Dire, c'est dégueulasse.
Et donc j'ai fait.
Okay, je veux pas Ray Charles, le préféré de Ray Charles.
Bah, c'est surtout ça. Je savais que. Et le fait est qu'il sonne, mais terrible le truc. Et que genre 30 ans après, on l'utilise encore tous les jours. Chaque fois, les gars, ils disent on peut pas prendre ton Rhodes là. Il a un son incroyable, incroyable.
500 francs. Bon, ouais. Renaud, on pourrait continuer à fond sur ta carrière. Tu vois, on n'a pas parlé aussi du fait quand même que tu as été à Gesson Live. C'est un truc aussi qui a fait. C'était un des éléments dans lequel tu étais reconnu. Tu l'as fait alors pour Souchon, etc. Mais même, c'est vrai que. Non,
en fait.
T'as pas recordé un album live avec.
Ah si, j'ai recordé beaucoup d'albums. À chaque fois que j'ai. Tous les artistes avec qui j'ai produit, en gros, j'ai fait. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, je produisais le live aussi. Parce que c'est moi qui produisais le disque, mais je produisais aussi la tournée derrière, mettre le truc en place, gérer les musiciens, tout ça. Mais j'ai aussi fait du live.
Pour Jean-Michel Jarre, c'est vrai ça?
Exactement, ouais. Ouais. Mais pendant très longtemps, en fait.
Le live de Jean-Michel Jarre, ça devait être un truc.
C'était un truc de malade.
C'est à l'époque où il y avait des milliers de gens.
Les shows laser et devant la Tour Eiffel, là.
Ouais. Ouais, exactement, mais j'ai fait ça, tout ça.
Ouais.
J'ai fait les concerts de Jarre de 90 à 2000. Donc j'ai fait celui en 89 même. En fait, j'étais assistant à Guillaume Tell. Lui, il est venu, il venait au studio pour faire son album. Qui s'appelait Calypso ou un truc comme ça, et moi j'étais assistant, et à la fin il m'a dit ouais, ça te dirait de venir enregistrer le live de ce concert là qui était
centenaire de la révolution là au Trocadéro,
c'est ça, à la Défense.
À la Défense.
Ouais. À l'époque où il n'y avait pas encore la Arche. La Arche, elle était en construction, tu vois. C'était vraiment... Et on projetait les images sur tous les immeubles de la Défense. C'était un concert de malade mental. Et c'est mon premier taf que j'ai eu à faire avec lui, où j'ai enregistré le live.
Pression.
Bah, laisse tomber. Et donc, j'enregistre le live avec comme j'ai pu, quoi. Et après, au fur et à mesure du temps, en fait, très vite, j'ai pu partir du studio et devenir freelance à cause des pubs, mais aussi parce que Jarre m'avait confié la responsabilité des concerts pour de vrai, et j'étais devenu l'ingénieur façade des concerts. Et là, j'ai fait des tournées européennes de malades dans les stades
en Russie, là, voilà, c'est n'importe quoi,
voilà. Donc ça, c'était le plus gros concert jamais fait, ouais.
Et ça t'as fait,
ouais,
fait
ça, ouais. Oh, ouais. Et j'ai terminé par les pyramides en Égypte le 31 décembre 1999, tu vois ce que je veux dire. C'était un concert pour le passage à l'an 2000. C'était abstrait, ce concert. Donc j'ai fait ça vraiment 10 ans, quoi. On a été à Teotihuacan au Mexique, on a fait tous les stades olympiques, donc Wembley, le stade olympique de Barcelone, tous ces trucs-là, c'était une époque.
On pourrait faire une émission juste sur ces lives, parce que j'imagine que c'était démentiel.
Surtout la Russie, c'était genre en 97 ou un truc comme ça, Boris Yeltsin.
Allez, 3 minutes.
C'était vénère le truc.
3 minutes sur la Russie, parce que c'est encore aujourd'hui le record de concerts en plein air avec le plus de monde.
Exactement.
Je sais plus c'est combien, mais c'est n'importe quoi. C'est millions, je crois.
C'est plus que ça. Et c'était surtout, c'était la plus grosse installation de son. Il n'y avait jamais eu autant de boîtes de mise pour un concert, quoi.
C'était mais du coup, la pression, comment tu...
Ça allait pas du tout, en vrai. Non, vraiment. Parce que je faisais 12 ans et demi, en plus. Et donc, on me faisait... Tu vois, les gars, quand j'arrivais à Wembley, il fallait que je m'impose. J'avais que des vieux Anglais, là, sous festival depuis 40 ans. Moi, j'arrivais, j'avais une tête de minot. Les gars, ils me prenaient pas du tout au sérieux. C'était l'enfer. En vrai, c'était... Pareil, c'est un peu pareil que c'est exactement, c'est-à-dire j'allais faire des concerts à Barcelone où je faisais Wembley, et le matin j'arrivais et je me retrouvais en train de mixer l'album de Souchon, Full Sentimental. C'était pile à la même période, donc c'était franchement, je vomissais juste avant les concerts. Dès que c'était parti, ça allait, j'oubliais le truc. Mais avant, les gars, je les ai rendus fous. Je leur disais, faut que j'aille pisser, là. En fait, c'était pour me barrer. J'avais trop peur. Et donc, je disais, je vais pisser. Les mecs, ils me retenaient vraiment par le pantalon en me disant, toi, tu restes là, quoi. Tu vas pas pisser. T'as pas le temps. Regarde le nombre de millions de personnes qu'il faut que tu traverses. C'est quoi ton truc? Et en fait, c'est parce que j'avais trop peur.
Ah ouais.
Franchement, j'ai un souvenir, le concert je crois que c'est le concert d'Égypte.
Ouais.
J'étais dans une grande tour et j'avais la console de gauche, c'était les stems, alors, comme on fait aujourd'hui avec l'ordinateur. Sauf que moi, c'était un putain de magnéto. Tu vois, c'était pas, j'envoyais un magnéto, moi, avec mes stems. J'avais la console avec tout ce qui venait de scène, donc tous les musiciens, il y en avait genre 12, et j'avais une autre console à droite pour l'invité. Et l'invité, c'était l'orchestre d'Oum Kalsoum, genre sur une estrade de malade avec 60 mecs et tout. Et là, c'était intense. Là, j'avoue que les trois consoles.
Le cerveau, il doit carburer.
Ouais,
hein.
Ouais. Et puis en plus, c'était une époque où tout était synchro avec le timecode.
Ouais.
Et le timecode, il venait de ma putain de bande. Donc si moi, je me ratais. Ça faisait partir tout le monde à n'importe où, tu vois. Donc les images, les feux d'artifice, tout était synchro avec le timecode, tu vois. Les bam pour que ça pète avec la musique, c'était, tu vois, et sans te parler de... Ouais, ouais.
Pff, quelle aventure.
Ouais, franchement.
Quelle aventure.
Et Moscou, c'était dans un autre truc parce que c'était un truc étatique. C'était pour les 800 ans de la ville. Okay. Donc là, on a eu affaire à tout ce qui est la Russie, vraiment, genre... dans le dur, quoi. Donc des anecdotes de malades où ils ont fait en sorte qu'il fasse beau avec
ils tiraient les
pétards de nitrate d'argent
dans les nuages.
Laisse tomber.
Je sais pas que ça se faisait, ça.
En Russie, ils ont tout fait. Ouais.
On était en conférence, on avait des réunions, tu vois, avec tous les chefs de pôle régulièrement. Et donc un jour, on est là avec Jar, il y a moi, il y a le mec de la sécu, le militaire, le représentant d'Eltsin, le machin, le bidule, la vidéo, chaque chef, quoi. Et puis c'était au mois d'octobre le concert, je crois. Et Jar, il fait vous êtes bien gentil là, mais si le 2 octobre, je sais plus la date, hein, mais on faisait des répètes de 3 semaines, 1 mois juste pour un concert, hein, tellement c'était un truc de malade. Donc ça faisait déjà bien 3 semaines qu'on était là, tu vois. Et puis à un moment, c'était tout gris le temps, il fait ouais les gars, là s'il pleut, on fait comment, quoi. Faut qu'on fasse un jour on fait le lendemain ou on fait un truc, on peut pas se permettre de se foirer, quoi. Et le gars, il fait non, t'inquiète pas, il pleuvra pas. et là Jar, il fait genre
t'es sûr,
ouais, là, il fait bon, arrête tes conneries, genre il dit pas comme ça, tu vois, mais c'était genre oui bon, soyons sérieux, comment on fait. Et là, il prend un coup de coude du traducteur, et le mec il fait ouais, genre écrase, quoi. Et là, on sort, et le mec il nous regarde, il nous dit vous avez déjà vu un défilé de l'armée rouge sous la pluie depuis 1950? Les mecs, ils gèrent ça depuis 1950, ils savent faire la pluie et le putain de beau temps, quoi. C'est hallucinant. Et donc ce qu'ils font, c'est ils font péter des petites explosions de nitrate d'argent, et les nitrates d'argent, ça repousse les molécules d'eau. Et donc tu te retrouves le matin, t'as une trouée, t'as un trou bleu, tout le reste autour c'est gris, mais autour de la ville c'est bleu, mais genre bleu, et c'est le truc le plus polluant de la terre, quoi. Genre, et j'ai des souvenirs où on se regardait tous en se disant putain, ce qu'on se prend là, c'est on était pile au dessus, quoi. Genre,
dans 20 ans c'est cancer,
tu vois. C'est trop bizarre, quoi. Voilà. Trop bizarre, ça, les avions de chasse russes, là, quand ils font la position du cobra, là. Donc, ouais, pendant le concert, les trucs en synchro avec la musique. ça allait. Enfin, Mir en direct. Enfin, c'était, mais genre. Hallucinant.
Je veux une émission consacrée
à ça. Il faudrait, avec Jean-Michel Jarre, il faudrait la faire. Il faudrait qu'il raconte ces trucs.
Ah,
parlons quand même. Daz, montre-nous cet album Drift at the Party. On va s'écouter un extrait tout de suite quand même. On peut t'en écouter au moins deux. J'en choisis un, t'en choisis un.
Ouais.
Ça te va?
Ouais.
Parce que franchement, moi je l'ai squatté tout l'été, j'avoue, l'album. Il est sorti quand exactement?
Il est sorti le 6 juin.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, je vais pas être original, mais Working on Me, je le trouve incroyable, ce morceau. Il est trop bien. Ça te va?
À fond.
Allez, c'est parti. Attends, je précise, dessus, donc Drift, toi, il y a Philippe Catherine.
Ouais.
Jamie Lidl.
Jamie Lidl, Feist et Benny Sings.
Rien que le casting sur un seul morceau. Allez, on s'écoute ça. trop bien.
Merci.
Le break là, comme ça, là, il me fait à chaque fois un truc. Qu'est-ce que alors bon, t'as déjà parlé de d'où vient cet album, etc. Du fait que notamment, bah après tant d'années de carrière, tu t'es dit, bah, c'est peut-être que je suis légitime maintenant. T'as fait appel aux copains avec qui t'as travaillé. On retrouve Conan Mocassin dessus. On trouve, il y a même un truc avec Vladimir Kosma, Philippe Catherine, on l'a dit, Benny Sings,
Saul Williams.
Saul Williams.
Il y a Choui aussi.
Ouais.
Ok.
Il y a ouais, beaucoup Choui.
Ouais.
Beaucoup.
Ouais. Ah, trop cool.
Parce qu'il y a aussi des morceaux, effectivement. On est entre. Enfin, c'est un album qui te ressemble. Pardon, ouais.
Non, c'est
un pote.
Ouais.
C'est
trop fort.
C'est un rappeur californien, ça.
Ouais.
Ah, je le kiffe. Ouais. Avec son assos, là, America's Most Blunted, là, volume 1, 2, 3. Je me bute avec ça.
C'est un mec qui a collaboré avec Large Professor, des trucs comme ça.
Ouais.
Qui était sur le label à un moment de. Il était sur un gros label avec des mecs, genre avec. Avec Denzel Curry, non? On avait un truc comme ça.
Ouais, c'est possible.
Je crois, bref. Ouais, qu'on trouve. Parce que l'album, alors, il est avant tout groove, funk, mais il est aussi jazz, il est aussi pop, il est toi, en fait, quoi. Tous les trucs dont on a parlé dans l'émission.
Ouais, enfin, là c'est quand même. C'est quand même. Il y a pas trop de Manu Chao, quoi. Il y a pas de rock alterno, tu vois. Non,
vrai.
Mais tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment là, c'est juste que normalement, un mec qui aime ce style de hip hop, il va aimer ce style de jazz, et il va aimer ce style de funk, et il va aimer ce style de chanson. Tu vois, c'est un goût commun, je crois, qui tu vois, un bon morceau de jazz, un mec qui aime le hip-hop, il va kiffer, quoi. Ouais. Et inversement, un mec qui aime du bon jazz, tu lui mets un bon morceau de hip-hop, le mec, il va être refait. Ouais. Donc, il y a un truc où c'était justement se balader là-dedans, mais avec un goût hyper commun et hyper marqué, quoi.
Il y a ce... Pareil, t'es venu avec des espèces de... T'as fait comme un artiste qui irait voir un réalisateur avec les copains qui t'accompagnaient
En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je partais de zéro... c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi, c'est que il a fallu que je fasse un peu un apprentissage, un peu en accéléré, tu vois, pour savoir qu'est-ce que je voulais dire, quoi. Mmh. Je voulais que ça soit sincère, le truc, tu vois. Je voulais pas tomber dans le truc genre justement où je sais faire et puis
Featuring sur chaque voilà, bah, toi tu viens poser ta voix.
Quelque part, l'album il est très produit dans un sens, mais dans un autre, il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est pas enjolivé, les sons, c'est juste des bons sons, mais c'est pas produit genre. Donc rien que ça, par exemple, je me suis aperçu que je pouvais, pour mes trucs à moi, j'aime pas quand il y a de la réverb. Tu vois, dès que j'en mets, je suis là genre, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, mais ça, je pouvais pas le savoir avant, quelque part, parce que j'adore en mettre pour d'autres. Mais quand c'est pour moi...
Et comment t'as su? Et
ben voilà, c'est là où ça prend un peu de temps. Et j'ai eu deux copains qui m'ont aidé à fond, quoi. Gonzo, donc Chili Gonzalez, pour de vrai. Lui, il m'a vraiment pris genre bébé artiste jusqu'à me dire « Ok, maintenant t'es officiellement un compositeur de jazz. » Et là, j'étais genre « Waouh !» Donc, non mais tu vois, j'ai eu besoin que les gens autour de moi me valident les trucs, quoi, tu vois, parce que je pouvais pas arriver avec un truc genre... Genre c'est frais, c'est ok, tu vois, il fallait que j'arrive à quelque chose qui soit un peu abouti. Et surtout, comme je voulais pas que ça sonne comme un album de producteur, il fallait qu'il y ait une touche personnelle.
C'est quoi sonner comme un album de producteur?
Eh ben, tu te retrouves avec 12 titres, avec une artiste, un artiste par titre, et puis c'est le titre de machin, c'est pas ton titre en fait. Là, il y a aucun titre où ils peuvent s'appeler... Tu vois, ils viennent ou que dans les couplets, ou ils viennent seulement sur un bridge, et sinon il n'y a pas de voix. C'est jamais genre... Même quand Philippe est tout seul sur un titre, il va faire que les couplets, les refrains, ils sont instrumentaux. Et donc, il n'y a pas de...
Il ne s'approprie pas tout le truc.
J'ai composé tout l'album avant de mettre des voix. Donc, l'album instrumental, il était genre les thèmes, les trucs. En fait,
c'est la route déjà.
C'est ça, exactement. Et c'était le seul moyen pour que le truc soit personnel. C'est qu'il y a un truc... tu vois, ce morceau-là, tu l'écoutes sans les voix, il est stylé quand même. Hein. Il y a plein de riffs, il y a plein de trucs, il se passe plein de trucs, tu vois. Donc c'est ce travail-là que j'ai fait beaucoup, c'est de faire un album instrumental où après je me suis dit, ok, maintenant, où est-ce que j'ai envie d'avoir des voix? Alors, celui-là, ça va être les voix, ça va être comme le solo dans les autres morceaux. Donc ça va être un morceau instrumental et à un moment, il y a une voix, et genre c'est charmé, tu vois. Et puis, il y avait deux morceaux un peu plus pop, dont celui-là. Donc là, je me suis dit, ok, bon, on va faire un truc un peu plus machin, mais je pouvais pas faire un truc... normal non plus, quoi. Ça,
oui, il y a beaucoup de ruptures dans le morceau, ouais, même s'il est ça, hyper easy listening. Voilà, il y a des
breaks. Et ça, tout, ça, c'est un truc qui revient dans tout l'album, où il y a des vraies cassures, un peu comme Tyler the Creator. Il y a un peu ce même principe, sauf que je passe pas de grunge à hip-hop, je passe de hip-hop à Bee Gees. Où je passe de des trucs plus comme ça, quoi.
Mais il y a du beat switch quand même, alors.
Mais c'est à fond. Ouais. Bah, c'est que ça. Ouais. Là, bah, mais lui.
Vas-y, c'est là, tu décides, vas-y.
Bah, on peut en mettre deux.
Ouais.
Où il y a Shui dedans.
Ouais,
donc,
carrément.
Tu mets Cosmic Drift.
Allez.
Et après, That's All.
Allez, c'est parti.
Le featuring de l'improbabilité, là. Shui, Vladimir Kosma.
Ouais, c'est ça qui est bon, mec.
C'est vrai qu'il y a les deux, là. Oh, là.
Celui-là, faut le mettre en entier, t'as pas le choix.
Now watch me levitating on this Rebel 8. I just set a date to reach a goal and I'm never late. Reefer in the wind just to help me get my mind straight. Wonder what tomorrow gonna bring me like a blind date. All we wanna do is make some money is the mind state. Let me be great, cause I've been slaving for it nowadays. Losing brain cells, I'm going crazy for it nowadays. Been in them alleys and denalies every Saturday.
Every Saturday.
And it feels good to be having things. Gotta pack a bag, gotta catch a plane. I'ma stand down, still around, never acting vain. Catch me in the traffic, still mobbing with my baggage claim. And it feels good to be having things. I've been on this grind for a time, I've been stacking change. I don't have a mind for a platinum chain. I just made a dial for the vowels on a rapping page. Man, it feels good to be having things. Gotta pack a bag, gotta catch a plane. I'ma stand down, still around, never acting vain. Catch me in the traffic, still mobbing with my baggage claim. Man, it feels good to be having things. I've been on this grind for a time, I've been stacking change. I don't have a mind for a platinum chain. I just made a dial for the vowels on a rapping page.
C'est jusqu'au bout, t'as vu. Hein. Ouais, on va pas s'écouter cool. Le deuxième, par contre, mais ça donne une bonne idée, effectivement, du travail sur cet album.
Ouais, super cool.
Y a aussi plein d'ambiances. J'invite vraiment tout le monde à aller l'écouter, sincèrement. Y a parfois, on vient vers nous en nous proposant des gens. Mmh. Là, en l'occurrence, on a entendu ça, on a écouté ça. C'est nous qui avons sollicité en disant on veut discuter avec Renaud. Parce que l'album est vraiment bien. Y a plein d'ambiances, de morceaux justement beaucoup plus doux, beaucoup plus posés, limite un peu ambiante, où tu poses vraiment juste les choses comme ça.
C'est des trucs
hyper simples.
J'avais beaucoup, je me compare pas du tout, mais j'avais un truc très Ennio Morricone dans tout ce qui est chill. C'est très dans cette vibe, je crois. Des thèmes de guitare hyper naïfs, enfin des mélodies hyper naïfs, mais qui sont ultra mélancoliques, quoi.
J'ai deux questions peut-être pour clore l'émission. Eda, je te propose qu'on squeeze les recos pour cet épisode. Ouais, mais on va vraiment dépasser. Là, ça fait un peu plus de deux heures.
Ok.
Est-ce que ça a remis un peu en perspective le fait d'avoir ton vrai bébé, entre guillemets? C'est vraiment, c'est toi, c'est ton nom, c'est en tant qu'artiste, en tant que compositeur, en tant que, tu vois, vraiment tout. La façon dont tu pouvais aussi t'approprier ou en tout cas t'investir dans les projets que t'as fait avant avec les autres. Est-ce qu'il y a un truc quand même un peu différent?
Ouais, c'est très différent.
Mais est-ce que ça a changé? Le rapport que t'as avec Clandestino, par exemple, si tu disais que c'était ton bébé, ben, est-ce que là tu te dis, ah ben en fait, pas, là c'est mon vrai bébé. Je sais pas, tu vois un truc un peu comme ça.
Mais là, c'est marrant que tu me dis, si je fais bien ce métier, c'est parce que je mets tout ce que j'ai. Tu vois? Donc, sincèrement, tous les albums que je fais, je mets tout ce que j'ai. Je sais pas travailler à l'économie ou à me dire, ah ouais, ça je vais le garder pour WAM ou ça existe pas dans ma tête. Donc ça, c'est juste ce que je suis, quoi. C'est juste la version de ce que je suis. Mais quelque part, j'ai fait mon Clandestino. Si tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire, j'ai été
dans l'intention,
dans la sincérité, dans le truc, et surtout, ce que j'ai compris. Et ça aussi, ça m'aide pour mon travail, même aujourd'hui où, quelque part, je pense qu'il y a certaines choses que je vais faire mieux parce que j'ai fait cet album-là, parce que je comprends qu'il n'y a pas, des fois, il n'y a pas de logique à ce que tu vas aimer ou pas. C'est juste que, pour toi, il y a des trucs que t'aimes et des trucs que t'aimes pas. Et c'est pour toi. Tu vois, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Bogart.
Oui, bien sûr.
Avec qui j'ai fait les 10 albums sur 11 qu'il a fait. C'est vraiment un pote. J'adore ce gars, il est ultra doué. Et c'est très marrant, il fait de la chanson française hyper poétique. Mais le gars, ce qu'il écoute chez lui, c'est Bob Marley toute la journée. Donc ce qui est, tu comprends, mais pour lui, il peut pas assumer autre chose que ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne choisit pas ce qu'on est. Tu vois, et ça s'impose à nous. Moi, il fallait qu'il y ait du jazz, il fallait que ça soit des trucs naïfs pour que ça soit sincère. Il fallait que il y ait un truc enfantin mais ultra mature, tu vois, et ça c'est au fur et à mesure du temps que je l'ai compris. C'est pour ça que ça m'a demandé aussi un peu de temps, c'est que il a fallu que je comprenne ce qui sortait de moi naturellement et ce qui me rebute pour moi-même et ce que j'assume pour moi-même.
Renaud, toute dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée alors que t'adorerais y répondre?
Voilà, c'est très éditorialisé cette émission.
Je me suis dit que si elle marche, peut-être que je la referais régulièrement.
Tu préfères.
C'est un truc, on t'en a jamais parlé ou jamais on t'a posé cette question alors que tu dis, putain, mais posez-moi la question, les gars. Ou un truc dont t'as envie de parler, tu vois. Peut-être qu'on t'a déjà tout dit, j'en sais rien.
Non, ça demande réflexion. Quoi.
Ouais, vas-y, prends quelques secondes, vas-y.
Ok.
Pendant ce temps-là, on pourrait faire les recos.
On pourrait faire les recos, mais on les écoute pas, alors. Juste, on dit...
Ah non, non, il faut les écouter.
C'est vrai. Bon, vas-y, alors, ok, on fait recos très rapide. On écoute genre 30 secondes, même pas, de chaque morceau. T'en as un?
Ouais. On mange bien cet été. On mange chez Freddy Gibbs et Alchemist, qui ont sorti Alfredo 2, qui est un album... Alfredo 1, pour moi, c'est un de mes albums préférés. C'est les deux, donc Freddy Gibbs, rappeur de Gary Indiana, et Alchemist, producteur historique du hip-hop.
Renaud, écoute pas, réfléchis à la...
Ouais, j'adore.
Et là, ils sont les deux au sommet de leur art. Tout l'album est incroyable. On va s'écouter le titre qui ouvre l'album, 1995. Moi, je trouve que le Empanadas de avec en featuring Anderson .Paak est incroyable, mais on l'écoutera dans une autre co.
Ensalada.
Ouais. Okay. Mais non, mais on va se faire.
Mais 1995.
Ouais, 1995.
Allez, c'est parti. Yeah. This the way God planned. Hope you can stand it. We don't die. We multiply like rabbits. Running like an addict. Took the high road on niggas. I'm riding over passes. Nothing in your catalog classic. You shacking like Tenacious. I father Cain, I turn these sons to bastards. Built to ass like Joseph Jackson, no relaxing. Rapping niggas in plastic. Mais alors, si tu peux avancer, il y a à un moment donné un beat switch comme Alchemist sait les faire. Vas-y. Avec un sample de guitare électrique que je trouve ouf.
Non mais alors là c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment. Là, on revient, il y a du rock partout.
Ouais, bah c'est trop bien.
C'est trop chambé, quoi.
Trop bien.
Ça remet un peu, ça rebat les cartes.
Renaud,
ouais.
Est-ce que tu as réfléchi à la question?
Pas du tout.
C'est vrai. Il fallait pas faire le rock en même temps.
Bah non, j'écoutais. J'ai...
Mais voilà, tu vois, c'était une mauvaise idée.
Je suis hyper poli comme mec, moi j'écoute quoi, tu vois.
S'il y en a pas, il y en a pas.
Non, je sais pas là, c'est ouais.
Est-ce que t'as une roco alors à l'inverse? Un truc que tu dis aux gens, allez, allez écouter ça, ça tue, c'est trop bien. Que bah, t'as découvert récemment, ou je sais pas.
Un truc qui me fait vraiment marrer.
Ouais.
Ouais, enfin, à part les clips, les machins, les trucs, il y a eu plein
très
de
bon
trucs.
Album de clips.
Ouais, ouais. Mais, pareil, Pharrell, là, le truc rock, genre ultra minimaliste, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Avec les le trucs 2000 mélangés, c'est trop stylé. Est-ce que vous avez entendu parler de Paco Almoroso? J'imagine que
pas
oui,
du
non
tout.
Ah ouais, non, mais ça... Si tu tapes Tanide, je pense que tu vas tomber directement sur Dumbai. Le morceau. Il Dumbai. S'appelle comment le morceau?
C'est Dumbai, ouais. C'est, Dumbai. Ah, Live at NPR. Ouais, c'est
Tanide. NPR. Ouais.
Est-ce que ça serait ça?
Tanide.
En tout cas, ils l'ont joué effectivement là, c'est le Tiny Desk, ce morceau. Là, c'est le live de Tiny Desk.
Ouais, c'est ça. Et le morceau s'appelle.
Là, c'est Dumbai.
C'est Dumbai.
Mais c'est pas Dumbai.
Ah merde, alors ça va être un autre morceau.
C'est un autre morceau.
El Unico.
El Unico.
Ah.
Ça sert. Deux jeunes argentins, ils sont en train de tout péter là.
Ouais.
Ouais. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya vuelvo invitándote. Ya cancelaste dos Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok, te veo después para darte again.
Ça chante, hein, là on est en live et ça chante.
Ouais, ouais, ouais. Faut écouter, franchement, faut écouter tout le live, c'est ultra bien. Et la perso des deux là, c'est genre.
Super, hein. Ouais. Ça a l'air hyper
ouais
bien.
Ouais.
On intersono Paco un peu.
Allez, c'est vrai, j'avoue qu'il y a dans la voix et tout.
Sincèrement, c'est rare qu'il y ait des trucs latinos qui soient stylés.
Ouais, bah ouais.
C'est sous.
Oh, dans le reggaeton, il y a quelques trucs cool.
Ouais, il y en a quelques, mais c'est.
Mais qui soient pas latinos.
Je suis désolé, mais c'est souvent. C'est pour le coup, c'est souvent variette malade quoi,
tu vois, folklorique.
Ouais ouais, là c'est vraiment le
la bonne musique.
Ouais ouais, c'est super et ils méritent, ils ont là ça cartonne mais partout, c'est genre le Tiny Desk, il a fait un nombre de vues hallucinant, ouais. Je crois qu'il a tout pété.
Bah pour déjà c'est rare que j'ai des enregistrements Tiny Desk dispo comme ça en streaming, je savais même pas là, tu vois, je suis resté dans Spotify par exemple pour l'écouter.
Ça m'étonne pas.
Allez, j'enchaîne très rapidement, après on se dit au revoir. Allez, j'ai découvert un mec, tu le connais forcément, Renaud, c'est Leif Vollebæk, tu connais ce mec?
Ouais.
Et j'en avais jamais entendu parler, c'est un folk, on peut dire, d'une certaine manière. J'ai trouvé ça hyper beau, il a une voix incroyable. On s'écoute simplement un morceau qui s'appelle Long Blue Light.
Petit mouchoir là.
Ah oui, c'est quoi dans les petits mouchoirs?
Je sais pas.
Il y a un mec qui chante comme ça.
Ouais, ouais, un mec, t'as l'impression, il chiale. Là,
alors, bah, c'est clair que c'est de la musique. Je crois qu'il a été plusieurs fois synchro, etc. Parce que c'est trop efficace pour des petites scènes un peu sentimentales dans les films. Mais je trouve ça hyper beau. Très bien fait. Voilà.
Ok.
Renaud.
Super.
C'était trop bien.
Bah, c'était trop court.
Merci beaucoup. Ouais, on a fait déjà un peu plus de deux heures. On est en plus sur un timing hyper
serré. Non, mais on a fait un break et tout, donc je pense qu'on est en dessous de deux heures. Pardon, François, pardon.
En tout cas, merci Renaud. Merci François merci pour le montage. En plus, il le fait dans un timing un peu court. Ouais. Donc, vraiment, merci. Merci à la bouclette. Enfin, en l'occurrence, c'était Sam aujourd'hui qui a tout géré tout seul. Bravo.
Merci Sam.
Un petit coucou aussi parce que j'ai regardé beaucoup d'interviews pour préparer cette émission. Il y en a plein qui sont bien avec toi, notamment une que t'as fait chez Pickles, chez le disquaire Major Tom.
Ouais.
Donc coucou à Pickles et super interview. Allez la regarder, c'est assez complémentaire à celle qu'on a fait où tu passes un peu des disques qui ont été importants pour toi et tout. C'est hyper bien. Un coucou, merci aussi à Kidam avec à qui on t'a reçu. Thoman évidemment. Merci
le
à
sang.
Vous aussi.
Le sang de la veine.
On se retrouve dans 15 jours.
Oui.
Ça sera trop bien.
Eh ouais.
Ciao.